Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bienvenue. Est-ce que ça roule? Attendez, je retire mes pompes. Hop là. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue, merci Laure pour ton resub. Merci Naroge également, merci Père Castor, Bébert, le syndicat. Merci pour vos resubs, merci beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Non, je disais rien de particulier, mais je suis allé vérifier. J'ai essayé d'aller sur le toit de mon immeuble pour vérifier cette histoire de perceuse qui finalement n'est pas une perceuse. Semble-t-il, on est sur des travaux de grosses œuvres sur le toit de mon immeuble pour l'étanchéité du toit, et c'est pour ça que ça fait du bruit. Et j'ai essayé d'aller checker, et le toit n'est pas accessible, j'ai pas pu. Ce qui, en soi, est plutôt une bonne nouvelle, que le toit soit pas accessible comme ça en claquant des doigts. Mais donc, j'ai pas réussi, j'aurais voulu prendre une photo pour vous montrer à quoi ressemble. Déjà, moi, je suis curieux, mais vous aussi, je sais que vous l'êtes. Donc, je voulais vous montrer à quoi ressemble le merdier qui fait du bruit pendant les streams. En direct du toit de mon immeuble. Oh, la ref est ancienne. Bon voilà, bah, ce sera pour une autre fois, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En attendant, nous avons la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui va commencer à 14h. On a déjà vu la séance d'hier qui était pour le moins chargée. Attends, c'est quoi ça déjà? Ouais, voilà, ça c'était les questions d'hier. Ok? Il y avait la question de la Fédération des boulangers sur le travail le 1er mai. Pourquoi est-ce qu'on nous interdit de travailler le 1er mai? C'est un scandale. Libérer le travail. Hashtag libérer le travail. La question de l'assassinat dans une mosquée, le meurtre d'Aboubacar Cissé, qui a été abordé hier. Peut-être qu'on y reviendra aujourd'hui, mais j'en suis pas sûr. Les fermetures d'usines, notamment ArcelorMittal, et les inquiétudes des élus. Ouais, ça, on l'avait noté. Les questions sur la fiscalité avec le retour possible d'une forme de taxe d'habitation qui a pourtant été supprimée par Macron, mais qui pourrait revenir par la fenêtre. À voir donc. Il n'y a eu aucune question qui a été posée sur la panne d'électricité en Espagne, dis donc. Est-ce que ça concerne directement la France? Oui, indirectement, parce je crois qu'on est un réseau électrique commun, mais est-ce que pour autant il y a une question à poser au gouvernement? Je suis pas sûr. LR triple son nombre d'adhérents en 2 mois à la faveur du duel Bruno Retailleau-Laurent Wauquiez pour la présidence du parti, source Le Monde. Bah, c'est gentil de copier-coller des articles de journaux dans mon chat, mais il suffisait de regarder le dernier Baxit. Hein. On en a parlé. Bonjour tout le monde. Bonjour Yann Amar. Bienvenue. Un avis sur le sondage Gauche Unie 2027. Ah, il y a eu un sondage pour l'Union de la Gauche? C'est où? C'est qui? C'est quoi? Il y a eu un sondage? Mais gauche unie, ça veut dire quoi? Avec qui dedans? C'est Odoxa? Odoxa, sondage. Politique, présidentielle. Il date de quand ce sondage, parce que je le vois pas. Est-ce que c'est celui du 29? C'est le baromètre politique d'avril. Je suis en train de checker, hein. Popularité du président de la République. On va regarder ensemble, attendez. On va regarder ensemble. Je découvre en même temps que vous le baromètre du mois d'avril, réalisé par Odoxa pour Public Sénat. La presse régionale et Mascaret, je sais pas qui c'est Mascaret. La popularité d'Emmanuel Macron. Dis donc, Emmanuel Macron, il a perdu de la popularité pendant son premier mandat. Et il en a regagné après. Particulier quand même, hein? Toutoum. Direz-vous qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République? On s'en fout. Popularité du Premier ministre, on s'en fout. Premier ministre, machin. Code d'adhésion de rejet des personnalités politiques. Le top, c'est Jordan Bardella. Le deuxième, c'est Marine Le Pen. Le troisième, c'est Édouard Philippe. Le quatrième, c'est Gabriel Attal. Le cinquième, c'est Bruno Retailleau. Le sixième, c'est Gérald Darmanin. Le septième, c'est Marion Maréchal. Raphaël Glucksmann arrive en 8e position. Et il est donc la personnalité de gauche, ou apparentée, qui a la plus grosse cote de popularité. Il est septième ex aequo. Pas mal. Impressionnant. Et ensuite, c'est Fabien Roussel, dis donc. Non, putain, je suis désolé, excusez-moi, il y a François Ruffin juste en dessous. François Hollande, Fabien Roussel, Bernard Cazeneuve, Denis Dupuis, Rachida Dati, tout ça, tout ça. Bon, d'accord, ok, on a compris. On a compris. Palmarès de l'adhésion, je m'en fous. Palmarès du rejet, je m'en fous. Si, attends, palmarès de l'adhésion, par curiosité. Glucose, à gauche, à 51% d'adhésion, devant François Ruffin et Fabien Roussel, et François Hollande. Putain, la vache. Centre et droite, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin. Ah, c'est intéressant, Édouard Philippe, il marche bien. Hein. Il a 77% d'adhésion, hein. Rassemblement national, bon bah Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin. D'accord. Gabriel Attal, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe. Bon, ok, on s'en fout un peu. C'est Harris Interactive. C'est Harris Interactive, le sondage dont vous me parliez. D'accord. Intention de vote. Attends, je regarde quand même. Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-vous si elle ferait un bon ou un mauvais candidat pour son camp à la présidentielle. Mauvais candidat, bon candidat, 58%, Raphaël Glucksmann, François Hollande, Olivier Faure. Ok, Faure est derrière Hollande. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez. Mais ça, en fait, on s'en fout un peu de cette question-là. Elle n'est pas très intéressante. Intention de vote pour le premier tour de la présidentielle. Avec la gauche divisée, avec Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier séparés, on a Édouard Philippe au second tour face à Marine Le Pen. Mais loin devant Édouard Philippe, hein. C'est intéressant. Hein. Eh bien. Ok. Hypothèse Jordan Bardella, il a encore un meilleur score. Ah non, 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 il est juste, il a ex aequo quasiment avec Marine Le Pen. Mais ça change pas grand-chose pour les autres, ok, mais ça on s'en doutait. Premier tour. Ok, il teste les hypothèses. Édouard Philippe gagne la présidentielle face à Marine Le Pen, face à Jordan Bardella aussi. Résonnant sur les réseaux sociaux, je m'en fous un peu. Bon, ok, bon, c'était de toute façon, c'était pas ce sondage-là que je voulais voir. C'était, vous m'avez dit, celui de Harris Interactive. Philippe, le vote barrage pour 2027. Ah bah, préparez votre bulletin de vote, Édouard Philippe, hein. Au second tour, on va devoir voter Édouard Philippe face à Jordan Bardella. Les enquêtes publiées. Voilà, merci beaucoup. Rapport complet. C'est bon, j'ai le PDF. J'ai le PDF d'Harris Interactive pour leur enquête, machin truc. Un panel de 1000 personnes représentatives, bon, très bien. Éléments de contexte. Pour mémoire, les résultats, on s'en souvient, d'accord. La perception de l'union de la gauche, soit une candidature commune à gauche, 79%. C'est ça, c'est parmi les électeurs de gauche, il y en a 79% qui veulent une candidature à gauche, une candidature commune. Mais quand vous dites, candidature commune, ça implique qui? Parce que les insoumis sont devant les écolos et devant les socialistes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les insoumis. Mais ça dépend, ça veut... c'est ça que je comprends pas en fait. L'organisation d'un processus ouvert. Donc ça, c'est l'hypothèse de la primaire. Saint-Président de la France Insoumise, 97% des insoumis sont pour une primaire. On en est sûr de ça? Ou alors je suis débile, hein, ce qui est possible, mais 97% des insoumis sont pour une primaire. Je sais pas. C'est pas ce que j'ai entendu jusqu'à présent de la part des insoumis. La question ne parle pas de primaire. L'organisation d'un processus ouvert à l'ensemble des sympathisants de la gauche et des écologistes pour désigner une candidature commune. C'est un ensemble de mots compliqués pour désigner ce qu'on appelle une primaire. Base de répondants. Faible, les résultats sont à prendre avec précaution. Mais ça, je sais, c'est un sondage. On a bien vu qu'on parlait de 1000 personnes. C'est en pourcentage de une bonne chose. Donc, on a demandé aux gens de gauche qu'est-ce qu'ils pensent d'une primaire. Ils ont répondu à 36%, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. À 50%, c'est plutôt une bonne chose. À 8%, bah, c'est plutôt une mauvaise idée. À 4%, c'est une giga mauvaise idée, c'est mort. Et à 2%, j'ai pas envie de répondre à votre question, foutez-moi la paix, arrêtez de m'appeler. Et dans les une bonne chose, donc c'est-à-dire les 50 plus 36, on a regardé la répartition par parti politique, par sympathisant de parti politique, pour savoir combien de pourcentage, etc. Et là, on a la réponse que 97% des insoumis ont répondu, soit c'est une très bonne chose, soit c'est une bonne chose. Moi, je veux bien, hein, peut-être, hein, peut-être que les sympathisants insoumis ne sont pas d'accord avec la direction du parti et avec les insoumis sur la question de la primaire. Peut-être, hein. Peut-être qu'on va être surpris. Intention de vote à la présidentielle. Une candidature de... Intention de vote au premier tour. Une candidate d'union de la gauche soutenue par la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes, Place publique, Génération, L'Après et Picardie debout. Ah, c'est intéressant, ils ont testé les hypothèses, ça c'est bien. Donc, en admettant qu'il existe un ou une candidate commune à gauche, mais commune au point de rassembler les insoumis et les socialistes. Admettons. Dans ce cas-là, la gauche fait 26% au premier tour et se qualifie au second tour. D'accord. Encore une fois, il n'y a pas encore eu de campagne, hein. C'est pas une prévision. Ah oui, je vais le redire parce qu'il y a encore des gens qui vont câbler. Un sondage n'est pas une prévision. C'est bon, je l'ai dit. Une candidature commune aux forces de la gauche, des écologistes soutenus par le Parti communiste, Parti socialiste, écologistes, Place publique, Génération, L'Après et Picardie debout. Sans les insoumis, ça fait 20%. Sans les insoumis, ça fait 20%. Et sans les socialistes et les insoumis, donc vraiment tout ce qu'il y a à gauche qui n'est ni socialiste ni insoumis, on est à 16%. Voilà. Donc, voilà, ça c'est l'hypothèse la plus forte, c'est la France insoumise et le Parti socialiste qui soutiennent le même candidat à l'élection présidentielle. Donc ni Mélenchon ni Glucksmann. Faut imaginer, hein, faut imaginer. Bon, ça c'est le deuxième truc, ça c'est le troisième truc, on a compris. Ok, d'accord. Bon, la morale de l'histoire, c'est préparer votre bulletin de vote, Édouard Philippe, au second tour. Voilà, moi c'est tout ce que je retiens. Achetez de nouvelles baskets, préparez-vous à vous diriger vers votre bureau de vote pour voter face à Jordan Bardella pour Édouard Philippe. Ou alors, faites un travail d'imagination dans lequel les insoumis et les socialistes se réunissent derrière la même candidature à l'élection présidentielle. Qui sait? D'ailleurs, le second tour face à Bardella, il a été testé, si c'est une candidature commune à gauche. Non. On n'a pas de second tour. On a les reports de voix, mais ils n'ont pas testé le second tour. L'alliance avec le socialiste, c'est la mort du projet insoumis. Oula, calme-toi, calme. Non, déjà non. Ensuite, ils l'ont déjà fait deux fois, les insoumis, de s'allier avec le Parti socialiste. Ils sont pas morts. Ils vont même assez bien. Ils ont même pas mal de députés. Enfin, ce genre, je veux dire, ça a plutôt de la gueule, ça a plutôt été bénéfique à la France insoumise, ce qui est une bonne chose. Personne va mourir. Aucun parti politique, aucune idée. Je viens d'arriver, est-ce qu'il y a un monde où la gauche est au second tour? Si les élections avaient lieu demain, virgule, et si l'on en croit un sondage réalisé par Harris Interactive, virgule, oui, il existe un monde où la gauche est au second tour, possiblement, c'est si la gauche s'unit derrière la même candidature, qui n'est pour l'instant pas désignée, et quand je dis la gauche, ça va des insoumis aux socialistes. Fin de citation. Faure a exclu la France Insoumise ce matin sur Inter. Alors, j'ai pas encore écouté l'émission d'Olivier Faure sur Inter. J'ai écouté l'entretien de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. J'ai pas encore écouté Faure sur France Inter. Mais c'est normal qu'Olivier Faure ait exclu Jean-Luc Mélenchon ce matin sur France Inter. Pourquoi ? Parce qu'Olivier Faure, en ce moment, qu'est-ce qu'il a comme actualité ? Il a un congrès du Parti Socialiste. Il doit gagner le vote des adhérents socialistes, des militants socialistes. Donc, c'est pas le moment de donner corps à la première rumeur venue qui veut que Olivier Faure est un féodé à Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc, comme d'hab, hein, comme d'hab. Les gens qui disent LFI plus jamais ou PS plus jamais, au bout du bout, en fonction des circonstances, peuvent se retrouver à négocier pour faire des accords. Alors jusqu'à présent, c'est jamais arrivé à la présidentielle, je vous l'accorde, c'est déjà arrivé aux législatives. Et aux municipales, l'année prochaine, faut voir. M'étonnerait, mais faut voir. Ça dépend des villes. Le congrès du PS, c'est pour modifier sa constitution interne ? Pas du tout. Le congrès du Parti Socialiste, c'est l'instance statutaire qui désigne les membres des organes dirigeants du parti, dont le premier secrétaire, le bureau national, le conseil national, et qui détermine la ligne politique du parti. Le congrès du PS, c'est trop fou qu'on doive en parler sérieusement. Personne ne t'oblige à en parler. Si c'est trop douloureux pour toi, ça peut arriver, c'est normal. On n'est pas tous aussi forts. Fort, Olivier Faure, j'adore. N'hésite pas à ne pas en parler. Une Tondelier en tête de liste à gauche, un peu à l'image d'une Ségolène, c'est utopique. Oh, Tondelier n'est pas à l'image de Ségolène. En plus, Ségolène, c'est très particulier quand même en 2006. On ne peut pas vraiment comparer la situation 2006 avec la situation 2025. Il y a tellement de choses différentes que... Ouais, non. Est-ce que Tondelier en candidate unique, c'est possible ? J'en sais rien, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a même pas de processus de désignation commun, et à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de volonté exprimée publiquement par les leaders des partis politiques concernés de converger vers une candidature commune. Un autre truc que je me permets de vous rappeler, c'est qu'on est le 30 avril 2025. On est large. On a du temps. On a du temps. Tout va bien. Il peut se passer un milliard de dingueries. Est-ce qu'un nouveau parti politique peut émerger ? Oui. Oui. J'en veux pour preuve que c'est déjà arrivé. En 2016, il y a La République En Marche qui a été créée. Un an et demi avant la présidentielle. Et en 2021, il y a Reconquête qui a été créée. Donc c'est la preuve que oui, c'est possible de donner naissance à un nouveau parti politique qui présente une candidature à la présidentielle, qui fait un score plus ou moins dégueulasse, mais en tout cas de nature à ne pas laisser indifférent. C'est ça qui compte. Parce que bon, un énième parti politique, disons petit parti, comme on dit parfois de manière un peu méprisante, Ça va pas changer une présidentielle. Mais une candidature qui fait entre 7 et 20%, ça peut bousculer sérieusement. Comment on fait ça ? Comment on fait pour créer un parti politique ? Eh ben, il faut être plusieurs, il faut être au moins deux. Et il faut déposer des statuts en préfecture, comme une assoce. Si vous vous y prenez maintenant, vous pouvez peut-être être président de la République en 2027. Va y avoir du chemin. On va pas se mentir, va y avoir du chemin. Va falloir courir. Mais voilà, le fait est que c'est déjà arrivé. LREM a pas trop mal fonctionné quand même. Ah bah, La République En Marche a même plutôt très bien fonctionné. Non pas dans le bilan, parce que je suis pas là pour porter des jugements sur le bilan du bordel, mais sur la dynamique qui a permis l'élection du président de la République, ça a été assez bluffant. Est-ce qu'un président sans parti, c'est possible? Oui, absolument. N'y a pas besoin d'un parti pour être président de la République, il y a besoin d'avoir une majorité de bulletins dans les urnes. Après, si t'as pas d'appareil militant qui soutient ta candidature, ça risque d'être un peu difficile de faire savoir aux électeurs que ton bulletin existe. À l'époque, c'était DSK qui était pressenti, puis il y a eu le scandale, puis c'est Hollande qui l'a remplacé. Alors ça, c'est faux. C'est factuellement faux. François Hollande n'a pas remplacé DSK. François Hollande a remporté une primaire dont il n'était pas le favori. Là, si tu veux regarder, si tu veux te replonger dans l'époque de 2011 pour savoir qui était en lice pour succéder à Dominique Strauss-Kahn, François Hollande n'était pas parmi les favoris, hein, du tout. T'avais Martine Aubry, t'avais Laurent Fabius, t'avais des mastodontes, t'avais des éléphants du PS qui pesait lourd. Il y avait beaucoup de militants, d'adhérents et tout. C'était pas François Hollande, il partait pas gagnant. Hein. Est-ce qu'un comeback de François Hollande à l'élection présidentielle, c'est possible? Oui. Oui, c'est possible. Est-ce que ça peut marcher? Ça, j'en sais rien. Mais compte tenu de ce que je viens de vous dire, j'ai envie de vous dire, ce ne serait pas la première fois que François Hollande serait surprenant. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas, on verra. Mais si François Hollande se déclare candidat à une hypothétique primaire à gauche, moi, le premier réflexe que j'aurais dans ma tête, c'est de me dire, tiens, ça me dit quelque chose. Il l'a pas déjà fait, ça? Ouais, puis il est parti de rien, presque rien, et il est monté, 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 puis il a remporté la primaire, puis il est devenu président de la République. Contexte. Donc, préparez votre bulletin de vote, François Hollande, pour faire barrage à Jordan Bardella. Non, j'en sais rien. Bah vous avez le choix, hein. C'est soit Hollande, soit... Non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi, je suis en train de lire vos messages parce que tout ça m'intéresse et que je suis curieux de vos réactions. Mais ce n'est pas la priorité du jour. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui va commencer dans une trentaine de minutes. On a déjà vu la séance d'hier au cours de laquelle il y a un paquet de sujets qui ont été abordés, notamment l'assassinat d'Aboubacar Cissé, un musulman en train de prier dans une mosquée. Son assassin présumé a été arrêté en Italie, il s'est rendu aux autorités policières en Italie. Il devrait être transféré en France dans le courant du mois de mai. Et ça a généré évidemment des réactions du côté du gouvernement et des parlementaires. Une mobilisation a eu lieu à Paris contre l'islamophobie. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est accusé de faire le service minimum sur cet assassinat, puisqu'il est en campagne pour devenir le nouveau président du Parti des Républicains. Est-ce que c'est normal d'avoir deux sessions la même semaine? Les sessions des questions au gouvernement, oui, il y en a toujours deux par semaine. Une le mardi, une le mercredi. La seule exception, ça a été entre 2022 et 2023 et demi, où il n'y avait qu'une seule séance par semaine. Est-ce qu'il y a une différence entre les séances? Non, la séance du mardi est une séance qui est un peu plus longue que celle du mercredi, puisqu'au cours de la séance du mardi, les groupes les plus nombreux ont plus de questions à poser que les groupes les moins nombreux. Par exemple, le Rassemblement national pose 3 questions pendant la séance du mardi, alors que pendant la séance du mercredi, c'est une question par groupe, quelle que soit la taille du groupe. Les petits groupes, les gros groupes, ils ont tous le même nombre de questions à poser à la séance du mercredi. C'est juste ça la différence. À part ça, c'est la même séance, ça fonctionne de la même manière, pour les mêmes raisons, etc. Est-ce que c'est tout le gouvernement qui va répondre? Non, les ministres qui sont présents au banc, comme on dit, les ministres qui sont présents au banc sont les ministres qui ont la main sur les dossiers du jour et de l'actualité. Le secrétaire d'État qui s'occupe de la mémoire et des anciens combattants, je ne suis pas persuadé qu'il soit là tous les mardis et tous les mercredis à attendre qu'une question lui soit posée. Les ministres les plus importants sont tous présents. Le ministre de l'Intérieur, évidemment, le ministre de l'Économie et des Finances, évidemment, Premier ministre, évidemment. Affaires étrangères, ça dépend parce qu'il est souvent en déplacement à l'étranger. Éducation nationale, santé, solidarité, travail. Voilà. En plus des ministres les plus importants, il y a aussi les ministres délégués, les ministres auprès du ministre. Vous savez que dans un ministère, vous avez un super ministre qui chevauche l'ensemble des données du ministère, et en dessous de lui, il a plusieurs ministres ou secrétaires d'État, ça dépend, mais peu importe, la différence est très ténue, qui s'occupe d'un dossier en particulier. Par exemple, vous avez le ministre de l'Économie et des Finances, qui a sous sa responsabilité un ministre de l'Industrie, un ministre s'occupe du tourisme, un ministre parfois du numérique ou de l'innovation, un ministre du logement, ministre de l'énergie. Enfin, vous voyez, ça dépend. Ça dépend des configurations gouvernementales, mais vous pouvez avoir plusieurs ministres pour un même ministre du budget, évidemment, vous avez raison. Ministre des comptes publics, comme on dit, qui est le ministre donc du budget de l'État, qui est aussi sous la coupe, c'est normal, du ministre de l'Économie et des Finances. Donc voilà. Et donc quand un ministre n'est pas là et qu'une question est posée au ministre, eh ben ça peut être un de ses collègues du même ministère qui répond. Si le ministre de l'Industrie n'est pas là, ça peut être le ministre du Logement qui répond à une question qui concerne l'industrie, parce que c'est le même ministère. Ils peuvent envoyer la porte-parole du gouvernement. Ah, tu peux toujours envoyer le porte-parole du gouvernement, tu peux toujours envoyer le ministre des Relations avec le Parlement. C'est pas difficile, hein. Des sous-ministres, en gros. Oui, si tu veux appeler ça des sous-ministres, mais enfin, c'est un peu péjoratif, alors que ce sont des gens qui. Je vous ai toujours dit que l'importance d'un ministre, le poids d'un ministre, ne se résume pas à sa position hiérarchique dans le gouvernement. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plus subtil que ça, c'est plus complexe. Ça dépend des dossiers qui sont traités, ça dépend de l'actualité, ça dépend de l'importance des dossiers dans le contexte, ça dépend d'énormément de choses. Pendant le Covid, par exemple, on peut estimer que le ministre de la Santé faisait partie des ministres les plus importants du gouvernement. C'est légitime. C'est complètement légitime. Comment les commissions et les séances à l'Assemblée se passent? Est-ce qu'elles sont simultanées ou bien chacune sont décalées? Ah non, non, il n'y a pas de décalage, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je vais essayer de te montrer. Je vais essayer de te montrer les réunions. Enfin, les calendriers. Je sais plus où c'est sur le site de l'Assemblée. Il est chiant le site de l'Assemblée parce qu'il est, il est mal foutu. Non, dégage, je veux pas ouvrir la console. Fous-moi la paix. Voilà. Donc en haut, il y a écrit Assemblée nationale. Bon, d'accord, très bien, il n'y a pas de typo. En dessous, il y a un espèce d'immense bandeau bleu. On ne sait pas à quoi il sert. Et t'as un micro-logo de l'Assemblée nationale. Franchement, vous auriez pu le rajouter sur le côté et réduire le bandeau, ça aurait fait beaucoup plus clair pour tout le monde. C'est une question de choix. Après, vous avez les différentes rubriques qui sont là, qui sont très orientées en direction des citoyens, c'est normal, hein, c'est le site internet. Et ensuite, vous avez ces espèces de cubes dont personne ne comprend rien. En plus, ils sont toujours en bleu. Non, mais il faut revoir les animations, parce que moi, quand je passe ma souris, j'ai pas envie d'avoir une image. J'ai envie d'avoir le texte. Bref. Ensuite, vous avez les agendas. Ah ben voilà, c'était ça que je cherchais. Voilà. Mercredi. Aujourd'hui, mercredi, il est 13h30. À 14h, vous avez la séance publique en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Vous avez la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Vous avez la mission d'information sur l'opérationnalisation de nouvelles fonctions stratégiques d'influence. Commission des affaires économiques, commission des affaires sociales, commission des droits de l'enfant, délégation, pardon, droits de l'enfant, commission des affaires européennes, mission d'information sur la géopolitique de l'eau, commission des affaires culturelles et de l'éducation, commission d'enquête sur les défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciement, etc., etc., etc. Voilà. Donc vous avez, regardez-moi ça, regardez-moi ces agendas. Vous avez l'agenda complet de l'Assemblée nationale, de toutes les commissions, de toutes les délégations qui vont se réunir cet après-midi, pendant la séance publique. Donc, tout à l'heure, pendant la séance, si vous remarquez qu'il y a des bancs qui sont un peu vides dans l'hémicycle, je vous invite à garder en tête ça. D'accord? Ça vous expliquera peut-être pourquoi il y a des députés qui sont en train de faire autre chose. Salut Jean Massier, c'est bien toi qui seras à Marseille pour la fête de l'Europe. Absolument, je serai à Marseille pour la fête de l'Europe. Où je vais animer une scène du festival, carrément une scène. On va faire trois tables rondes avec des gens passionnants pour parler de plein de sujets trop cool. Ce sera le 17 mai à Paris. Venez, ça va être bien. Je suis en train de préparer, de bosser dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Festival de l'Europe est un festival gratuit qui est organisé en parallèle d'un autre festival à Marseille, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, pardon. Et c'est un festival au cours duquel il y a une grosse scène avec de la musique. Donc ça va être extrêmement cool. Il y aura notamment la DJ, vous savez, la DJ ukrainienne, qui est devenue assez célèbre. Voilà, le Delta Festival. Merci beaucoup, Sam. Et bah, bref, il y aura des artistes trop cool qui vont être sur scène. Et à côté, il y aura tout un village associatif avec plein d'organismes, d'associations qui seront là pour répondre à vos questions et vous sensibiliser sur plein de trucs. Et il y aura une deuxième scène dont je serai l'animateur et sur laquelle on va faire un certain nombre de tables rondes. On est en train d'inviter les gens et tout pour parler de sujets intéressants en lien avec l'Europe. Et c'est, je le rappelle, gratos. Est-ce que ce sera en live pour les non présents? La réponse est non. La réponse est non. Il n'y aura pas de retransmission live des tables rondes. Navré. Est-ce que tu pourrais éviter de dire toutes les 2 secondes, c'est trop nul l'Europe, mais je veux vous rendre cool. Il y a des gens qui aiment l'Europe, tu sais. Oh non, tu t'es senti blessé. Ben, je continuerai à le dire. Quand même. Navré, il y a beaucoup plus de gens qui trouvent que l'Europe, c'est chiant à mourir que de passionnés. Pareil pour la politique, hein. Politique c'est chiant, la politique évidemment que c'est chiant, vous déconnez ou quoi? Regardez ce qu'on va regarder ensemble cet après-midi. Une bande de costards-cravates qui posent des questions dans des micros, vous croyez vraiment que c'est fun? Non, c'est pas fun la politique, ça l'a jamais été. Au demeurant, est-ce que ça a vocation à l'être? Très bonne question. Donc, on va continuer à vulgariser la politique sur cette chaîne. Et si vous aimez pas la vulga, allez regarder une autre chaîne, vraiment, hein. Et surtout, si vous êtes passionné de politique, ou d'Europe, vous forcez pas à regarder mes émissions qui essayent d'être accessibles à des gens qui aiment pas ça, hein. C'est pas, voilà, c'est une proposition. Ma chaîne n'est qu'une humble proposition sur la toile de l'Internet. L'Europe pour une TPE, c'est l'enfer. L'Europe pour une TPE, c'est l'enfer. Oui, la sécurité sociale pour une TPE, c'est l'enfer. Tu vois, les deux phrases sont vraies. Quelles autres émissions conseilles-tu pour un public plus averti sur la politique? Bah, normalement, si vous êtes plus averti sur la politique, vous savez où trouver les contenus qui vous intéressent vous. Hein. Bah, j'en sais rien, je sais pas qui t'es, je sais pas ce que tu cherches. Moi, ma recommandation, c'est toujours la même, c'est de se diriger vers les contenus proposés par les médias de référence. Le Monde, par exemple, fait un très bon boulot. Le Figaro Libération pour parler des quotidiens nationaux. Ensuite, t'as les radios. T'as quand même France Info, France Inter, France Culture. C'est quand même pas dégueulasse. La proposition est plutôt cool. La télévision, bah, je vous laisse voir ce que vous aimez. Enfin, vraiment, là, ça dépend de vous, hein. Moi, je vous recommanderais volontiers Arte parce que c'est quand même de la frappe. Et l'audiovisuel public d'une manière générale, France 2, France 3. Enfin, je dis ça. Je les regarde pas, donc je sais pas, mais. Et voilà. Et ensuite, sur Internet, alors sur Internet, vous avez tous les créateurs de contenu possibles et imaginables qui vous offrent tout ce que vous avez envie d'entendre de manière assez quotidienne. Hein. TPMP. Regardez ce que vous voulez. Je suis pas là pour juger. Le travail en commission est souvent plus approfondi sur des sujets précis. Absolument, c'est à ça que ça sert les commissions à l'Assemblée nationale. J'ai un pote qui considère que les lives politiques, c'est de la télévision. Bah, il a raison, puisque c'est au format 16 neuvième. Regardez. Là, ça, vous avez 16. Là, ça, vous avez 9. Ça fait un format 16 neuvième. Et c'est le même format que la télévision. Comment j'ai dead ça? Ben voilà, c'est de la télé. Tu regardes jamais des commissions en stream comme les QAG? Si, ça peut arriver, mais uniquement quand il y a une actualité qui justifie que la commission soit streamée sur ma chaîne. Je ne vais pas m'amuser à regarder, pour le plaisir, la commission des affaires sociales cet après-midi, qui va examiner la proposition de loi relative à la fin de vie. Putain, en plus, la fin de vie, je crois que ça fait un mois que le truc, il est en discussion. Je veux bien, mais... Si les QAG c'est chiant, les commissions c'est encore pire. Alors oui, alors, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas habitués à regarder l'Assemblée nationale, croyez-moi sur parole, les questions au gouvernement, c'est le plus fun qui existe. Il n'y a pas plus fun que les séances de questions au gouvernement. C'est une séance qui est rythmée, avec 2 minutes de temps de parole par personne. On sait qui prend la parole, etc. Tac, 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 boum, boum. C'est le summum du fun. Si un jour vous voulez vous en convaincre, je vous invite à regarder les commissions. Allez, mais allez sur le site internet de l'Assemblée nationale. Hein. Vous allez sur le site internet de l'Assemblée. Hop. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous allez dans les dernières vidéos, là. Hop. Vous cliquez. Et vous regardez n'importe quelle séance de n'importe quelle commission. Vous allez dans les commissions, là. Vous checkez n'importe laquelle, là, qui vient de se passer. Hop. Je sais même pas ce que c'est. Affaires culturelles, lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap. Vous cliquez sur n'importe quel prénom là à droite.
Merci. Madame Frédérique Meunier.
Merci, Madame la Présidente. L'antisémitisme est un délit et il va de la responsabilité des chefs d'établissement et des présidents d'université de prendre des mesures disciplinaires. Aussi, quelles garanties seront mises en place dans l'application de ces procédures disciplinaires?
Alors, il faut bien comprendre un truc qui est important, c'est que ces réunions de commission là, elles sont pas faites pour être publiques, c'est pas un spectacle. Ce sont des vraies réunions de vrai travail. On pourrait dire d'un certain point de vue que c'est de la télé-réalité, mais de la vraie télé-réalité. C'est-à-dire qu'on a mis des caméras dans des salles qui sont pas faites pour avoir des caméras. Donc les gens qui sont là, ils sont en train de bosser, mais vraiment. Ils sont pas là pour être en représentation, ils sont pas là pour faire des retweets, ils sont pas là pour je sais pas quoi, ils sont là pour échanger des arguments, adopter des amendements, voter des résolutions, des lois, des trucs comme ça. Donc c'est un truc à garder en tête qui est assez important. D'autre part, à qui ça se destine cette diffusion-là ? Évidemment, moi je voulais montrer pour moquer, en disant, tiens, qu'est-ce qu'on se fait chier à aller regarder la commission des affaires culturelles, etc. Mais la réalité, c'est que le dossier sur lequel ils sont en train de bosser, c'est un dossier qui impacte des gens concrètement. Et c'est ces gens-là qui peuvent être amenés à regarder. C'est ces gens-là qui peuvent être amenés à regarder volontairement ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce qui se passe au Sénat, dans les commissions, les débats, les discussions. Vous avez les fédérations associatives concernées par l'objet qui regardent. Vous avez des citoyens concernés, vous avez des journalistes. Il y a des chercheurs aussi qui regardent. Donc voilà, gardez en tête que vous n'êtes pas la cible. Faut faire toujours attention avec le whataboutme sur Internet. Vous n'êtes pas la cible de la diffusion. Donc, oui, c'est chiant. je confirme, c'est chiant. Mais encore une fois, ça a jamais, y a pas de promesse qui a été violée. Ça a jamais été prévu pour être fun. Comment font les nouveaux députés qui n'ont jamais travaillé en commission pour savoir comment travailler en commission ? Ben, ils apprennent. Je rigole pas, hein, ils apprennent. Vous vous souvenez quand on parlait de formation des élus dans le dernier Backseat ? On a même interviewé Antoine Fabry, qui est un professionnel de la formation des élus. Alors lui, Antoine, il est spécialisé dans la formation des élus dans la ruralité. Mais il y a des gens dont le métier, c'est de former les députés. Sinon, tu peux prendre un bouquin, attends. Je ne le retrouve pas. Je le retrouve pas, mais j'avais un bouquin qui avait été écrit par Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice, qui s'appelait « Le manuel de la guérilla parlementaire ». C'est un bouquin qui s'adressait aux députés en leur disant « bah voilà ce que vous devez savoir, notamment les nouveaux députés, voilà ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, à la fois dans les textes, voilà. » Tout ce qui est écrit dans le règlement de l'Assemblée, voilà comment ça doit fonctionner. Mais voilà aussi les petits trucs et astuces à savoir et à connaître quand on est député pour bordéliser une séance, déposer un maximum d'amendements, faire perdre du temps à tout le monde. Ça, c'est pour les côtés un peu fun, mais pour les côtés un peu moins fun et plus sérieux, comment faire passer un amendement, comment bien écrire un amendement, comment faire pression sur le gouvernement pour le forcer à intégrer ton amendement dans son projet de loi, etc., etc. Je crois que peu de gens savent que tout est public, commission et séance au Sénat. Comme à l'Assemblée, tout est diffusé et accessible gratuitement. C'est une chance. Beaucoup de pays dans le monde ne fonctionnent pas ainsi. Bah oui, non, mais t'as raison, ça paraît ridicule, mais enfin, je veux dire, prenons 2 minutes, les amis, pour prendre de la distance critique par rapport à ce qu'on regarde, vous et moi, sur Twitch depuis 10 ans, le mardi et le mercredi. On regarde une séance diffusé en direct à la télévision et sur Twitch, au cours de laquelle les membres du gouvernement de la République, les responsables politiques, se font cuisiner par des députés élus par le peuple. Ils se font tantôt brosser dans le sens du poil, tantôt ils se font engueuler. Il y a des mouvements, il y a des huées, il y a des applaudissements, etc. machin. Vous vous rendez compte la chance qu'on a de vivre dans ce pays-là et de pas vivre dans, je sais pas, la Corée du Nord, l'Iran, n'importe quel régime autoritaire ou démocratie faillie. Ça me paraît être un minimum dans une démocratie. Bah ouais, non mais oui. Moi aussi, je suis comme toi, ça me paraît être un minimum dans une démocratie, mais c'est quand même très français ce qu'on est en train de dire. Alors les USA, je ne sais pas pourquoi vous écrivez les USA, parce que les USA, ils font mieux que nous, hein. Les USA, ils font mieux que nous. Ils font des auditions publiques des ministres qui se font engueuler personnellement par des membres de l'opposition. En France, on a les auditions en commission, qui ressemblent un peu à ce qui se passe aux États-Unis, mais aux États-Unis, ils ont le sens du spectacle. Donc, je dis pas et je ne dirai jamais que notre démocratie, elle est parfaite. Mais dans un continuum d'amélioration d'une démocratie, je trouve qu'on est quand même mieux placé que d'autres pays. On a la chance, nous, petits cons de citoyens, de pouvoir regarder sur Twitch, en charentaise, des députés engueuler des ministres. C'est pas grand-chose, engueuler un ministre, c'est pas le bout du monde, pas comme ça qu'on dirige. Mais ça dit quelque chose quand même d'un exercice de démocratie parlementaire qui met à disposition des citoyens cette transparence-là, quoi. J'ai pas de charentaise, est-ce que je peux quand même rester? Eh ben, tu enlèves ton pantalon, c'est la règle. Si t'as pas de charentaise, t'enlèves ton pantalon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas une règle. Il n'y a pas de règle, de toute façon, ici, on fait ce qu'on veut. Trop tard. Et si j'ai pas de pantalon, vous êtes con. Ça commence dans 13 minutes, en tout cas, la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. Installez-vous confortablement, sortez votre carte bleue et abonnez-vous à ma chaîne Twitch. Vous verrez, on se sent mieux après. Et ensuite, voilà, ensuite, vous allez assister à un spectacle, somme toute, tout à fait qualitatif. Celui des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, qui, je vous le rappelle encore, n'est pas un spectacle. Merci Pires pour ton prime. Ce n'est pas un spectacle, la séance des questions au gouvernement, c'est très sérieux, c'est très concret, c'est de la vraie télé-réalité. Il y a vraiment des vraies caméras dans notre vraie Assemblée nationale avec des vrais députés dedans qui engueulent les vrais ministres. Et n'oubliez pas de faire vos déclarations d'impôts. Ah, c'est en ce moment les déclarations d'impôts? Ah ouais, vous déconnez pas, hein. Vous déclarez vos impôts, hein, je veux rien savoir. C'est des gens palpables en vrai. Mais oui, c'est des vrais gens. Moi, hier soir, vous savez ce que j'ai fait hier soir? Hier soir, je suis allé au lancement du bouquin de Lucie Castet. Vous savez? Attendez. Où sont passés nos milliards? Le livre publié aux éditions du Seuil par Lucie Castet. Elle a fait un lancement hier dans une librairie à Paris. J'y suis allé. C'était cool. Et dans la librairie, il y avait du gratin, il y avait du beau monde, hein. Il y avait Marine Tondelier, il y avait Cyrielle Chatelain, il y avait Yann Brossat, Marie-Charlotte Garin. Qui d'autre j'ai croisé? Je sais plus. Raquel Garrido, je suis pas sûr. Johanna Roland, il y avait Johanna Roland qui était là, bien sûr, il y avait Johanna Roland, c'est vrai. Johanna Roland était là. Donc mine de rien, voilà, il y avait des députés, des sénatrices, des maires, etc. Voilà, bah, du coup, je vais papoter avec eux et avec elle. On a parlé de tout, de rien. Coup, j'ai discuté avec Cyrielle Chatelain. Cyrielle Chatelain, c'est la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée. Hein. Et ouais, c'était cool. Il y avait que les Verts. Bah non, je viens de te dire qu'il y avait toute la gauche sauf LFI. Voilà. Tu leur as dit de s'abonner? Non. Est-ce que Marine Tondelier t'a encore appelé connard? Non, sûr que non. Est-ce que Lucie Castet et toi, vous avez échangé vos livres avec dédicace? Mais moi, mon livre, je crois que je l'avais envoyé à Lucie Castet. Je crois qu'elle l'a reçu. Et elle m'a dédicacé le sien. C'est où? Elle fait une dédicace. Cher Jean, en espérant que ce court essai contribuera à nourrir tes réflexions et à remettre la question des services publics et de leur financement au cœur des débats. À bientôt, Lucie Castet. Sympa ? Bon, faut que je le lise, hein. Je me le mets de côté pour le lire à l'occasion. Est-ce que tu tutoies certains hommes politiques en dehors de la vie pro ou pas ? Bah oui. Enfin, je veux dire, moi, alors, après, vie pro, vie perso, tu sais, ça veut pas dire grand-chose, pour ce qui me concerne. Même s'il y a une limite, évidemment, mais vous comprenez bien. Moi, je tutoie à peu près tous les politiques que je rencontre. Hein. Je fais exprès de ne pas... En fait, j'aime pas vous voyez les politiques. Après, c'est une question qui est pas tout à fait tranchée dans mon esprit. Hein. J'ai pas une doctrine absolue. Je sais qu'on n'a pas la même manière de fonctionner avec d'autres qui, eux, préfèrent garder une distance entre eux et les politiques en disant « moi, je n'appartiens pas à votre monde ». Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, je viens de votre monde, je viens de la politique, et donc j'assume de tutoyer des personnes pour leur faire bien comprendre, dès le début, que je ne me place pas dans une logique de hiérarchie vis-à-vis d'eux. J'ai pas envie de courber les chines devant les politiques, madame la députée, monsieur le sénateur, monsieur le ministre. Et puis surtout, je trouve, et c'est pas que en politique, mais je trouve que les conversations, quand il y a du tutoiement, elles sont beaucoup plus franches. Elles sont assez carrées, quoi. Jean, l'homme du peuple. Je suis pas l'homme du peuple, certainement pas. J'ai pas cette prétention, bien au contraire. Je fais partie du monde politique. J'en viens. Après, il y a des politiques que j'arrive pas à tutoyer. Je me souviens de Christiane Taubira, quand je l'avais interviewée, c'est vrai que j'avais eu du mal à la tutoyer, quand même. C'est pas facile. Christiane Taubira, c'était plutôt Madame Taubira, quoi. Gérard Larcher, évidemment, non, je l'ai pas tutoyé, Gérard Larcher. Mais tu vois, en fait, c'est aussi une manière de parler. C'est une manière de se comporter avec les politiques. Tu vois, hier, par exemple, je croise Cyrielle Chatelain. Bon, Cyrielle Chatelain, moi, je l'ai déjà tutoyé par le passé, mais du coup, je lui ai demandé direct, ça va, Cyrielle, pas trop claqué, ça se passe comment à l'Assemblée? Parce que du coup, elle m'a dit, non, si, je suis crevé, et là, on doit retourner à l'Assemblée juste après. Ils sont juste venus pour la dédicace, et ensuite, ils reprenaient le métro pour retourner à l'Assemblée pour voter sur le projet de loi simplification. Du coup, elle me raconte ça. Je lui fais, putain, mais comment tu fais? Parce que franchement, moi, l'agenda de l'Assemblée, en ce moment, j'y comprends rien. Et elle m'a répondu directement, non mais je suis comme toi, c'est un bordel, enfin je j'en peux plus, j'ai envie de me flinguer, c'est on est tous épuisés, on est claqués, etc. Donc tu vois, c'est une manière de s'adresser la parole, c'est une manière de se parler, et moi je la préfère comme ça, cette manière de se parler avec les politiques, comme ça au moins c'est cash, c'est clair, c'est direct, on fait pas semblant de madame la députée, monsieur le sénateur, voilà. Il y a aussi un truc qui est important à savoir avec les politiques, et moi, c'est que les politiques, quand ils me rencontrent, ils savent, ou en tout cas je leur fais savoir d'une manière ou d'une autre, que je n'ai rien à leur demander. Je ne suis pas dans un rapport avec eux de contractuel, où on va échanger. Je ne suis pas en train de demander un service, je ne suis pas en train de demander une subvention, je ne suis pas en train de demander un poste, je ne suis pas en train de demander une circonscription ou une place sur une liste. Moi, je ne viens pas avec des attentes, avec des demandes. Moi, je suis en mode tranquille, tout va bien. Donc, ça permet aussi d'avoir un rapport beaucoup plus calme, je pense. En manif, quand tu rencontres des élus, il y a un respect, une distance, mais quand tu leur parles, c'est des gens comme tout le monde, et heureusement, c'est nos représentants. Bah, je suis d'accord avec toi, ça participe de ça aussi, ce sont nos représentants. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des postes ? De quoi, en politique ? Oui, mais c'est pas... Alors déjà, il faut savoir qu'on vient pas proposer un poste comme ça à quelqu'un de manière brutale. Bon, sauf Lucie Castet, elle, c'est compliqué parce qu'elle a été nommée... elle a été nommée chef de file de la gauche unie du NFP en une soirée, en un coup de téléphone. D'ailleurs, elle le rappelle. Mais moi, non, non, moi, il y a déjà des gens en politique qui sont venus me voir pour discuter avec moi, pour voir si éventuellement, potentiellement, je pourrais être intéressé par un approfondissement qui nous permettrait à terme d'envisager que peut-être je pourrais représenter quelque chose. Bref, j'ai bien compris le message. Tu veux voir s'il y a moyen que on fasse une campagne ensemble et que, en gros, voilà. Donc, mais moi, à chaque fois, je leur fais poliment savoir que non, merci, c'est gentil. J'en suis pas là, quoi. Donc c'est encore une fois, le tutoiement, il m'aide aussi à rappeler cette absence totale de ma part de requête vis-à-vis des politiques. Je suis pas dans une position de j'aimerais bien, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, j'aurais besoin d'eux. Ah non, 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 moi je suis giga détendu, hein. Je viens, je suis là. On discute, on discute. Moi j'aime bien parler de politique. Les politiques, ils adorent parler de politique. Bah, viens, on prend un café, on discute. Raconte-moi comment toi tu vois les choses, quoi, je suis content. Puis moi, je te dirai ce que j'en pense, et puis on verra si on est d'accord ou pas. Et puis si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Content de cette revue quand même. Alors attends, elle raconte quoi? Normalement, c'est dans le premier chapitre que Lucie Castel elle raconte. Je vais vous lire. Un court extrait. Le 22 juillet. Ah putain, il nous reste que 3 minutes. Non, 3 minutes, j'aurai pas le temps. Parce qu'il y a Lucie Castel dans son bouquin qui raconte comment elle a été contactée par Olivier Faure pour devenir première ministre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se le garde de côté et on se le lit après la séance. T'as vu comment c'est pas mal? Eh, hey, le teasing, il est bon, hein? Profitez-en pour vous abonner, évidemment. Je vais passer aux toilettes rapidement, j'arrive. Heureux de retour. Merde, j'ai oublié de prendre de l'eau, je reviens. Re, cette fois-ci pour de vrai. Quelle heure il est? Il est 59, ça a pas tardé à commencer, mesdames et messieurs. Dididididum, la séance publique. Paf, paf, ça c'est bon, ça c'est prêt. Le volume au maximum. Putain, ils ont le son tellement bas à l'Assemblée à chaque fois, ça m'énerve. Ah. T'as donc refusé Matignon? À ce qui paraît, t'étais dans la shortlist juste avant Bayrou. Ouais, j'ai refusé Matignon. Ouais. Proposer Matignon, j'ai fait non, je peux pas. Proposer, allez demander à Bayrou, ça lui fera plaisir. Voilà, c'est ce que j'ai répondu à Macron quand il m'a appelé. Il devrait te contacter pour savoir si le flux te va, je pense. Qui ça, à l'Assemblée nationale? Ah ben moi j'adorerais, hein, tu sais, ça fait en 10 ans, j'ai jamais rencontré l'Assemblée nationale. Les services de communication, tout ça. Tu pouvais pas aller à Matignon, t'avais la Zilane à préparer et à gagner. Ah oh non, mais connaissant mon talent, j'aurais gagné la Zilane depuis Matignon. Donc tu vous vois le président. Macron? Ben Macron, je lui ai jamais adressé la parole. Et si je le rencontrais, ben ça dépend du contexte dans lequel je le rencontrerai. Est-ce que ça te dirait pas d'aller les interviewer en direct là-bas à la sortie? Qui ça, les députés? Non, ça m'intéresse pas du tout, déjà parce qu'il y a plein d'autres médias qui le font, ce qu'on appelle la salle des quatre colonnes, hein. Et d'autre part, ça coûte beaucoup trop cher, en fait. C'est-à-dire, si j'avais un journaliste avec une caméra et un micro qui irait poser des questions aux députés dans la salle des quatre colonnes, ça me coûterait horriblement cher. C'est payant? Bah, faut le payer, le journaliste, les gars. Et vous croyez quoi? T'envoies un journaliste avec un caméra et un micro, un JRI, comme on les appelle? C'est pas gratos, hein? Bien sûr que c'est payant d'embaucher des gens, bah enfin. Puis ça coûte vachement cher, hein? Dis donc, dans ce pays, on n'aime pas la réussite, hein? On est surtaxés, nous, les petites entreprises. Tu y vas, toi, avec ton iPhone? Oui, bien sûr. Tu peux pas y aller? Donc, c'est-à-dire, donc comprenons bien, vous voulez que je diffuse en direct la séance des questions au gouvernement et qu'à la fin de la séance, je laisse continuer le stream pendant que je me casse à l'Assemblée. Je dois avoir 35-40 minutes de transport pour y aller. Et vous, et vous croyez que les viewers vont rester? Et qu'une fois sur place, je tends mon micro au dernier député qui reste? Ça marche pas comme ça. La séance va commencer, mesdames et messieurs. Yaël Braun-Pivet, la présidente, qui va s'asseoir au perchoir pour présider cette séance de questions au gouvernement.
Bonjour à tous, la séance est ouverte.
Bonjour.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Hubert Brigand pour le groupe Droite Républicaine.
Hubert Brigand, le député de la droite républicaine, qui va poser la première question. Droite républicaine, ça veut dire les républicains, vous avez bien compris.
Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous choisirez le ministre qui va pouvoir me répondre. Des économies, oui, bien sûr, mais pas sur le dos des retraités, ni en augmentant les impôts. J'ai l'impression que Monsieur Lombard découvre qu'il faut faire 40 à 50 milliards d'économies. Il y a longtemps que les Français le savent.
Monsieur Lombard, c'est le ministre de l'économie.
On arrête la gabegie et on arrête les dépenses inutiles. Vous direz aussi, Monsieur le Premier ministre, à Monsieur Ferracci, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent s'installer en France, à Dunkerque peut-être, où il faudra créer des bâtiments, en région parisienne, la Fosse-sur-Mer. Dans ma circonscription, on licencie à tour de bras. On a des bâtiments opérationnels vides qui peuvent accueillir tout de suite des entreprises. Donc, le message à faire passer. Des emplois, on en a besoin. Monsieur Darmanin le sait. Ça fait des années que je réclame sur mon territoire un établissement pénitentiaire. J'aimerais que M. Darmanin soit plus efficace que ses prédécesseurs, qu'il arrête de me mener en bateau.
Attends, on a un député qui réclame un établissement pénitentiaire, c'est très rare. Hein.
Mais pas une cabane en préfabriquée ni en planche, une vraie prison.
Hubert Brigand, il a 72 ans, il est député de Côte d'Or, du côté de Châtillon-sur-Seine, il est informaticien à la retraite.
C'est moi.
Et il pose une question très générale.
Dans ma circonscription, 332 communes de moins de 1000 habitants. Qui dit mieux? 135 km du nord au sud. La loi que vous avez voulu faire passer en douce, sans avouer quel était l'objectif final, elle m'est restée en travers de la gorge. Et le monde rural, pareil. Voilà.
Il fait référence aux ZFE, je crois.
Monsieur le ministre, si vous voulez faire des économies, je pense qu'il y a une quinzaine de ministères en trop. Ça ferait des économies pour conserver nos écoles en milieu rural, sauver nos lycées en milieu rural, créer des postes dans les hôpitaux. Monsieur le Premier ministre, quelle est votre position sur ces mesures de bon sens issues du monde rural?
Attends, comment supprimer un ministère?
Merci beaucoup.
Ça sauvegarde l'enseignement en milieu rural.
Amélie Montchalin, ministre en charge des comptes publics.
J'ai pas tout compris. On écoute Amélie Montchalin.
Présidente, monsieur le député, nous partageons un constat. Effectivement, il nous faut réduire la dépense publique. Effectivement, le Premier ministre et ce gouvernement n'ont aucune intention de créer de nouveaux impôts. Et c'est bien par la réduction de nos dépenses que nous reprendrons notre objectif, qui est de retrouver 3% de déficit d'ici 2029 et 4,6% de déficit l'an prochain. Vous parlez de ruralité. Notre vision des choses, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, qui ont été par exemple les maisons France Service, et les maisons France Service, ça fonctionne très bien. Et je dois dire que c'est partagé avec les collectivités et que c'est budgétairement très responsable et très raisonnable. Et donc le Premier ministre a lancé quoi ? Une revue précise, mission par mission, ministère par ministère, pour se dire au fond, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce que les Français attendent ? Comment on doit s'organiser ? Comment on doit redonner de la lisibilité à l'action publique ? Parce que les Français, c'est bien de leur argent qu'on parle. Il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas d'argent de l'État, il n'y a que l'argent des Français. Et notre vision, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique, c'est qu'il n'y a pas d'impôt magique, et que c'est bien en travaillant par cette vision de l'organisation de la dépense qu'on va y arriver. Ensuite, vous avez fait un point sur les locaux qui peuvent accueillir des industriels. Choose France, le 19 mai prochain, c'est la grande réunion où nous accueillerons tous les industriels du monde qui veulent s'installer en France. Il est très précieux que nous ayons cette liste de bâtiments, ça s'appelle les sites clés en main. Les préfets, vous pouvez les informer, sont prêts à nous les lister, parce que quand nous rencontrons les entreprises, nous ensuite facilitons leur installation. Pourquoi c'est clé, monsieur le député ? Vous avez raison. Parce qu'il n'y a aucun déficit, aucune équation budgétaire qui ne tienne si d'abord et avant tout, nous ne nous préoccupons pas du travail, de l'industrie, de l'emploi, de la création de richesses. Et c'est donc bien pour ça que ce gouvernement a un objectif. Ne pas alourdir les charges des entreprises, soutenir le travail, remettre au travail les jeunes qu'ils souhaitent, remettre au travail les seniors qu'ils souhaitent. C'est bon pour la ruralité, c'est bon pour la France.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député.
Right.
Oui, monsieur le député, je ne suis pas vraiment satisfait de la réponse et je suis un peu déçu, monsieur le ministre, Premier ministre. Vous répondez d'habitude toujours. Et là, c'était le monde rural qui vous parlait. Je suis un peu vexé que vous ayez méprisé le monde rural à ce point-là.
Hubert Brigand, le représentant du monde rural à lui tout seul, qui n'est pas content que le Premier ministre ne lui ait pas répondu à lui sur sa question qui était pourtant claire. Catherine Hervieux pour les Écolos.
La présidente, monsieur le Premier ministre, notre pays fait face à des défis colossaux, crise climatique, effondrement du vivant, explosion de la précarité et des inégalités, des urgences vitales que notre groupe porte sans relâche dans cet hémicycle. Et pourtant, au regard du choix des textes mis à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, de leur empilement, des changements d'agenda, se pose clairement la question du sens des priorités de votre gouvernement. Cette organisation ou désorganisation sème le doute sur votre capacité à définir des priorités claires pour protéger notre pays. Car que voit-on ? Un projet de loi simplification écrit à la hache, sans vision, qui obstrue le calendrier parlementaire au nom d'une prétendue efficacité administrative. Une loi sur l'audiovisuel public en sursis que personne ne veut et qui nous affaiblira face aux influences et aux ingérences étrangères. Une loi du plomb dangereuse à l'heure où explosent les cancers et les maladies liées aux pesticides. Et pendant que votre gouvernement tergiverse, la France est attaquée. Nos hôpitaux, nos collectivités, nos entreprises sont la cible de cyberattaques massives ou d'actes de sabotage. Le rapport de la CNIL publié hier est sans appel. Le SGDSN et l'ANSSI tirent la sonnette d'alarme.
Parlez dans le micro, madame.
Ils regardent ailleurs. Pire, ils continuent à affaiblir les capacités de résistance du pays par des coupes budgétaires drastiques. Ils repoussent, s'inédier, l'examen de propositions de loi relatives à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Or, nous avons besoin de visibilité chaque jour qui passe, met en danger la population exposée à des risques d'accidents.
Catherine Hervieux, elle a 66 ans, elle est députée du Côte d'Or du côté de Dijon, elle est ancienne enseignante et psychologue. Elle est née à Meknès au Maroc avant de s'installer à Dijon avec sa famille. C'est une militante écolo qui a été administratrice de France Nature Environnement et elle a présidé la fédération Atmo France qui lutte pour la qualité de l'air. Elle pose une question au gouvernement, elle aussi très générale, sur les priorités du gouvernement.
Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement.
C'est Patrick Mignola qui va lui répondre.
Merci, madame la présidente.
Non, il y a Claire Lejeune qui monte dans l'hémicycle.
Madame la députée, il est important, suite à votre question, de pouvoir rappeler ce qu'ont été les priorités du gouvernement depuis son installation autour du Premier ministre. Depuis le mois de janvier, après les textes budgétaires, nous avons tenu à faire voter les lois agricoles qui correspondaient à des promesses qui avaient été faites il y a une année. Puis ensuite, une série de lois sur les collectivités locales, puisque nous sommes à un an des élections locales, et il convenait de donner aux élus et aux futurs élus les règles du jeu sur lesquelles ils pourraient appuyer leur projet de territoire. Ensuite, nous avons travaillé sur un bloc régalien. Vous avez voté hier la loi sur le narcotrafic. Dans quelques jours, ce sera la loi justice des mineurs. La loi simplification est en cours et nous espérons pouvoir la terminer au moins à la fin du mois. Puis le mois de mai sera consacré aux textes sociétaux avec les soins palliatifs et l'aide active à mourir. au mois de juin, ce sera la programmation pluriannuelle de l'énergie et Mayotte 2. J'entends votre observation sur le fait que cette cohérence n'est pas toujours identifiée par nos concitoyens. Et pour cause, le gouvernement ne dispose que d'une à deux semaines par mois d'ordre du jour gouvernemental. Mais pour autant, le Premier ministre a tenu, pour sa part, à avoir quelques fils rouges qui relèvent plus de l'ordre réglementaire. Je veux rappeler notamment les initiatives qui ont été prises avec la ministre d'État sur les questions de l'école, de l'éducation nationale, de la formation des enseignants. La semaine dernière, sur la santé et l'accès aux soins, pour que dans le mois qui vient, des propositions très concrètes soient effectuées aux côtés des élus locaux. Et puis également, le sujet du logement, évidemment, le grand sujet qui nous attend, qui est celui, comme le disait votre collègue de Côte d'Or à l'instant, celui de la réforme de l'État et du budget. Il va de soi que, sur les autres semaines, à peu près partagées à parité avec le gouvernement, les députés que vous êtes ont tout loisir de placer à leur initiative d'autres textes que le gouvernement accompagnera.
Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Sophie Maître pour le groupe démocrate.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Vous vous êtes rendu hier au centre de tri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour évoquer un sujet absolument essentiel pour le quotidien des consommateurs français et européens, celui de la régulation et de la sécurité du e-commerce. Essentiel parce qu'il s'agit d'un enjeu pour nos commerces de proximité, essentiel parce qu'il s'agit d'un enjeu de sécurité pour les consommateurs. Enfin, essentiel parce que nous sommes porteurs d'exigences en matière de santé publique, sociale et environnementale.
Ah, c'est la lutte contre Temu et contre Shine, etc., c'est ça ?
Et nos consommateurs de la contrefaçon.
Ah non, la contrefaçon.
C'est plus vrai dans un contexte commercial que Donald Trump a engagé en ciblant notamment massivement les importations chinoises. Cela va avoir un impact immédiat en exposant le marché européen à un risque de report massif des flux commerciaux. Les petits colis venus principalement de Chine, introduits à des prix défiant toute concurrence via des plateformes numériques, pourraient affluer encore plus massivement sur notre territoire qui en reçoit déjà 800 millions chaque année. C'est la raison pour laquelle vous avez présenté hier un plan d'action pour la régulation et la sécurité du e-commerce. Ce plan d'action que nous soutenons prévoit des mesures concrètes afin que nos règles soient enfin respectées, dont les plus fortes nécessiteront d'être prises au niveau européen. Je pense notamment à la volonté française de mettre fin à l'exemption des droits de douane pour les petits colis dans le cadre de la réforme de l'union douanière intervenant en 2028, ainsi que l'instauration à partir de 2026 d'un mécanisme de contribution sous forme de frais de gestion forfaitaire appliqué à chaque colis entrant en Europe pour financer nos contrôles.
Sophie Maître, elle a 65 ans, elle est députée de Gironde, elle est ancienne bénévole au sein d'une association de parents d'élèves et d'associations culturelles diverses et variées, engagée en politique depuis 2001, et elle pose une question sur la régulation du e-commerce et la lutte contre les contrefaçons, un sujet très intéressant je trouve. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Amélie de Montchalin qui va répondre.
Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous avez raison, il s'agit bien de protection. Protection d'abord des Français. Nous avons 94% de ces 800 millions d'articles aujourd'hui qui sont non conformes, et d'abord non conformes en termes de sécurité. Nous parlons d'articles qui incendient nos maisons, nous parlons de produits cosmétiques qui rendent nos Français concitoyens malades, nous parlons de jouets qui sont toxiques pour nos enfants. D'abord, il s'agit donc de faire respecter nos normes. La deuxième protection, c'est celle de nos entreprises. Parce que derrière, Véronique Louwagie, ministre des PME et du Commerce, pourrait vous en parler, ce sont nos commerçants qui sont en danger. C'est aussi nos marques, nos belles marques françaises qui sont en danger parce qu'il y a la contrefaçon. Et puis le troisième risque, c'est un risque pour les finances publiques parce qu'il y a une sous-déclaration massive, il y a de la fraude à la TVA, mais il y a aussi de la fraude aux droits de douane. Notre projet est le suivant. Faire en sorte que nous protégeons les Français et que les contrôles aient lieu. Les douaniers font leur travail parce que les plateformes ne font pas leur travail. Et donc nous devons financer des contrôles beaucoup plus massifs, même avant la mise en place des mesures de l'union douanière que nous défendons, notamment le passage au premier euro des frais et des droits de douane. Comment nous allons le faire ? En européen, le plus rapidement possible, en faisant payer aux plateformes les contrôles qu'elles devraient faire elles-mêmes, parce que je ne souhaite pas, je crois que
c'est personne... C'est une bonne idée, ça.
Faire payer aux contribuables français, aux honnêtes contribuables français, le coût des contrôles que les plateformes, notamment chinoises, devraient faire. Mon homologue néerlandais est très motivé pour le porter avec moi. Les Allemands en ont fait une priorité de leur contrat de coalition. Et je vous annonce que la France, dans les prochaines semaines, réunira tous les ministres en charge de cette question au niveau européen pour que nous nous coordonnions, que nous agissions, que nous protégions notre économie, mais que surtout, nous protégions les consommateurs qui parfois ne se rendent pas compte que derrière des prix défiant toute concurrence, ils se mettent eux-mêmes en danger.
Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Ok, donc le gouvernement a une ambition de lutte contre la contrefaçon. Merci, en ligne. Madame Salvatore Castiglione.
C'est à Madame la Ministre du Travail. Madame la Ministre, si les boulangeries et les fleuristes tenus uniquement par le gérant pourront ouvrir le 1er mai, il existe un flou juridique concernant ceux qui souhaiteraient faire travailler leurs salariés. En effet, le Code du travail précise que les établissements et services pour lesquels la continuité de l'activité était indispensable ne sont pas concernés par les obligations de ne pas travailler le 1er mai. Mais le texte ne donne pour exemple que les hôpitaux et les transports et ne fixe pas la liste exhaustive de ces services dits indispensables. Pendant longtemps, ceux qui bénéficiaient déjà de la dérogation au repos dominical étaient considérés comme pouvant entrer dans cette liste. Mais une décision de la Cour de cassation de 2006 a remis en cause cette hypothèse. Résultat, nos boulangers, nos fleuristes, qui exercent une activité ô combien utile, n'ont pas le droit techniquement de faire travailler leurs salariés le 1er mai. Pourtant, la vente du muguet représente la deuxième ou troisième plus grosse journée de l'année en termes des ventes pour les fleuristes, qui subissent de plus la concurrence déloyale de la vente à la sauvette. Cette journée représente un chiffre d'affaires de 19,4 millions d'euros pour l'ensemble du secteur. Autrement dit, c'est 1,9 million d'euros de TVA collectés pour les recettes de l'État, contre zéro quand la vente se fait en commerce illégal. Alors, j'ai bien entendu, Madame la Ministre, que vous souteniez la proposition de loi des sénateurs centristes, ainsi que certaines initiatives des députés pour changer la législation en la matière, mais celle-ci ne s'appliquera qu'en mai 2026. Au plus
Salvatore Castiglione, député du Nord, de Valenciennes, 54 ans, technicien permanent politique depuis ses 19 ans. Il pose une question sur le travail le 1er mai qui est interdit, y compris pour les boulangers et les fleuristes qui n'ont pas le droit d'embaucher quelqu'un.
Comme des millions de
Et vous, dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt pour le droit du travail ou pour les petits entrepreneurs ?
Cette année pour ce type de commerce. C'est ce qu'attendent nos boulangers, nos fleuristes, pour ouvrir en toute quiétude. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Véronique Louwagie, ministre en charge du commerce, de l'artisanat et des PME.
Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Salvatore Castiglione. En tant que ministre du commerce et de l'artisanat, je partage votre préoccupation. Comme vous l'avez dit, la loi prévoit que le 1er mai est un jour férié, chômé et payé. En revanche, les artisans, boulangers et fleuristes que vous avez cités peuvent travailler eux-mêmes le 1er mai. La restriction porte sur les salariés qui doivent bénéficier du 1er mai comme un jour férié, chômé et payé. Il y a un certain nombre d'exceptions que vous avez citées pour les salariés qui travaillent dans des établissements et des services qui ne peuvent interrompre leur activité. Ce sont par exemple les cas des EHPAD, des hôpitaux, des services de secours et des transports. Mais le Code de travail n'institue aucune dérogation générale. Aussi, il revient à chaque employeur de justifier au cas par cas que son activité est indispensable localement pour la satisfaction des besoins essentiels du public. Les boulangers et les fleuristes, comme d'autres professions, expriment leur préoccupation, une préoccupation d'ailleurs légitime face à cette situation de flou juridique. J'apporte tout mon soutien à une clarification législative souhaitée et souhaitable.
Ah, ça va faire des débats intéressants à l'Assemblée, ça.
Panosian-Bouvet. Je salue d'ailleurs les initiatives parlementaires. Ici, sur ces bancs, un certain nombre de députés, je pense par exemple à Olivier Marleix et Alexandre Portier, tout comme celles des initiatives des sénateurs centristes que vous avez citées. Mais comme vous le savez, ce que la loi a fait, seule la loi peut le défaire. Et donc, bien entendu, cette clarification ne pourra avoir lieu avant demain, avant le 1er mai 2025, au regard du temps parlementaire. C'est pour cela que depuis plusieurs semaines, nous avons pris en considération les préoccupations des boulangers et des artisans en invitant les fédérations locales à se rapprocher des services locaux de l'État, donc des services de la préfecture, de leur département. Il s'agit d'apprécier le besoin d'une couverture territoriale minimale, notamment pour répondre aux besoins alimentaires de la population. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur François Jolivet pour le groupe Horizon.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le 27 avril 2024 à Châteauroux, Mathis, 15 ans, était tué de plusieurs coups de couteau. L'émotion est immense. Dans cette ville moyenne, un drame absolu s'est noué entre deux adolescents. Au moment où je vous parle, d'ailleurs, des milliers de personnes sont rassemblées autour de ses parents. Leur malheur nous oblige. Le principal suspect a 16 ans. Il était déjà poursuivi quelques jours plus tôt pour des autres faits et repéré depuis sa jeunesse comme étant un enfant atteint de troubles du comportement. Il y a quelques jours, un autre gamin, aussi atteint de troubles de comportement, a commis l'irréparable à Nantes. Point commun entre ces deux affaires, deux jeunes auteurs et deux jeunes victimes. Point commun entre ces deux affaires, deux jeunes présentant manifestement des troubles du comportement, pour ne pas dire psychiatriques. Comment est-il possible que des personnes repérées comme dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres puissent être aussi laissées en liberté? L'inclusion en psychiatrie, cela ne peut pas être d'abandonner des personnes à risque dans la rue en attendant leur prochaine victime. D'ailleurs, le sujet est tellement prégnant que la délégation parlementaire aux droits de l'enfant a décidé de lancer en urgence une mission d'information sur la santé mentale des mineurs. Notre collègue Nathalie Collin-Osterlé en est la co-rapporteure. J'associe d'ailleurs aussi à cette question Anne-Cécile Violent, très mobilisée sur le sujet. Comme tout par ailleurs le ministre Laurent Marcangeli, qui a fait adopter une loi pionnière pour protéger les mineurs des dérives des réseaux sociaux agissant sur la santé mentale. Monsieur le ministre...
Il y a une tribune qui a été publiée par Gabriel Attal et le professeur Rubio, qui proposent tous les deux l'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux en dessous de l'âge de 15 ans. François Jolivet, il a 59 ans, il est député de l'Indre, du côté de Châteauroux, il a été directeur général des services du Conseil général de l'Indre, il a aussi géré l'ICF Habitat Atlantique, qui est une société immobilière du groupe SNCF. Il est député, il pose une question suite au meurtre à coups de couteau qui a eu lieu à Châteauroux, et il demande une réforme de la psychiatrie et davantage de moyens pour la psychiatrie.
Éric Neudert, ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins.
Et il a raison.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Jolivet et quelque part l'ensemble de votre groupe parlementaire. Vous évoquez un sujet qui est extrêmement horrible quand on est parent. D'une façon générale, c'est de voir les adolescents s'agresser entre eux et surtout conduire à des morts comme le petit Mathis ou comme le cas récent à Nantes. Donc je crois que tout ça est horrible et ne peut que recueillir l'empathie de notre Assemblée. Par ailleurs, le sujet que vous évoquez, il y a une instruction judiciaire en cours, mais si effectivement des troubles psychiatriques, psychologiques apparaissent dans un certain nombre de cas, c'est aussi le fait de pouvoir en parler pendant la grande année de santé mentale et de pouvoir prendre des décisions qui vont pouvoir justement protéger nos jeunes. Il y a deux niveaux de protection. Il y a naturellement de pouvoir protéger toutes les entrées dans les IT, l'établissement, avec des portiques de sécurité. On ne vient pas au lycée, on ne vient pas à l'école avec des couteaux. Et puis, il y a toute la partie beaucoup plus difficile sur la prise en charge de la santé mentale. Et je crois que j'étais encore ce matin dans le ministère avec les acteurs de la psychiatrie pour justement détecter les pathologies émergentes des jeunes, puisqu'on sait qu'entre les 15 et 25 ans, c'est là que se déclarent beaucoup de bipolarité, de schizophrénie et de troubles psychotiques. Donc je crois qu'il faut déstigmatiser ces sujets, qu'il faut former la communauté éducative, le monde associatif, pour lever le voile et pour pouvoir mettre en charge des prises en charge spécifiques. Il faudra augmenter les prises en charge psychologiques et surtout psychiatriques, que ça soit dans les CMP ou dans les hôpitaux de jour, ou voire en hospitalisation, en psychiatrie. Et ça nécessite donc des moyens et des professionnels de santé. C'est une question de moyens, mais de moyens humains, parce que pour pouvoir prendre en charge correctement des adolescents, eh bien, il faut des personnels formés, que ce soit des psychiatres, des psychologues.
Merci, monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Karine Lebon pour le groupe GDR.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, la Réunion avait confiance. Nous avions confiance. Et pourtant l'histoire se répète. 20 ans après l'épidémie dramatique de 2005, les décès liés au chikungunya nous replongent dans ce souvenir douloureux. Plus de 100 000 personnes ont déjà été infectées d'après l'ARS et beaucoup souffriront de douleurs chroniques. Depuis 8 mois, nous alertons sur les risques. Aujourd'hui, une famille pleure son bébé, emporté par le virus. Nous pensons à elle et à toutes les victimes. Mais la douleur ne peut être une fatalité. La confiance en la science ne se décrète pas, elle s'enseigne. Aujourd'hui, cette confiance est rompue. Comment encore croire les autorités alors que l'ARS nous avait pourtant juré que le vaccin contre le chikungunya était sans risque ? Nous avions confiance. Mais l'arrêt en urgence de la vaccination des plus de 65 ans à la suite d'un premier décès dévoile en réalité toute l'impréparation des autorités, malgré les signaux d'alerte. Dois-je vous rappeler le désengagement de l'État dans le financement des contrats PEC ? Vous venez d'annoncer 140 militaires, 800 contrats PEC et 200 agents de l'ARS. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour lutter efficacement dans les bas, dans les hauts ou encore à Mafate. Ce n'est pas suffisant dans les hôpitaux où des nourrissons et des personnes âgées sont sous morphine et où nos soignants sont à bout de souffle. Tant que nous n'aurons pas éradiqué les vecteurs de cette maladie, nous ne pourrons mettre un terme à l'expansion du chikungunya. Tous les moyens doivent être mis en œuvre. Lors de sa visite éclair à La Réunion la semaine dernière, le président de la République a à peine évoqué cette épidémie. Monsieur le ministre, je vous le dis clairement, cette crise a été mal gérée. Cette épidémie a été sous-estimée. Les Réunionnais ont été abandonnés. Voici notre triste constat.
Karine Lebon, elle a 39 ans, elle est députée de La Réunion du côté de Saint-Paul, elle est professeure des écoles, actrice pour des programmes courts sur France O et des publicités. Elle pose une question sous forme d'alerte sur les ravages du virus du chikungunya. Elle demande plus de moyens à La Réunion, on écoute la réponse du gouvernement.
Madame la députée Legon, je connais votre engagement et la très grande émotion qui nous anime tous face à la situation que vit La Réunion. Double situation dramatique, puisqu'effectivement, un épisode d'infection de chikungunya qui rappelle malheureusement celui de 2005 et 2006, et également un dernier cyclone, Garance, qui a encore mis à contribution notamment le système de santé. Je voudrais revenir sur un certain nombre de sujets. Concernant la lutte antivectorielle, je crois que c'est l'affaire de tous, que ça soit les parlementaires nationaux, que ça soit le gouvernement, l'État, ou que ça soit les maires que j'ai rencontrés pendant les 3 jours que j'ai passés à La Réunion, conseil départemental, conseil régional. Et je crois que cette lutte antivectorielle, avec l'aide humaine de l'ARS, les militaires et l'ensemble de l'organisation est importante. Nous avons rajouté également le vaccin. Ce vaccin, je voudrais faire la transparence, c'est un vaccin du voyageur qui a reçu une AMM en juin 2024.
L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché pour un produit de santé.
Santé pour savoir si effectivement il y avait matière à le proposer. Nous avons reçu un avis favorable de la Haute Autorité de Santé sur les plus de 65 ans et sur les 18-65 ans avec comorbidité. Cette vaccination s'est déroulée dans les meilleurs délais puisque nous avons acheté 100 000 doses qui nous permettaient d'être un des premiers pays au monde à permettre la vaccination pour protéger contre le chikungunya. Malheureusement, les bénéfices-risques restent un sujet d'actualité. Il s'agit de toutes nos forces de lutter contre l'obscurantisme, mais il s'agit aussi d'avoir des vigilances de pharmacovigilance, justement, et quand des effets indésirables graves, comme des cas d'encéphalite chez des gens âgés de plus de 80 ans avec comorbidité, eh bien, nous amènent à prendre des décisions extrêmement importantes et difficiles, qui est la suspension, puisque dans cette tranche d'âge, malheureusement, le bénéfice n'est pas supérieur au risque.
Merci, monsieur le ministre. Madame la députée.
Madame la présidente, monsieur le ministre, vous parlez de bénéfice-risque. Moi, je vous parle vraiment de la santé des Réunionnaises et des Réunionnais.
Merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur Alexandre Allégret-Pilot pour le groupe UDR.
Alexandre Allégret-Pilot.
Ma question s'adresse au ministre chargé des Outre-mer. Alors que les Néo-Calédoniens ont par 3 fois confirmé la volonté de rester français et que le gouvernement a reporté les élections provinciales, nous apprenons que vous discutez avec les membres du Front international de décolonisation, mouvement séparatiste téléguidé par l'Azerbaïdjan. Pire, vous défendez une notion étrangère.
Manuel Valls est trop de gauche. Trop de gauche, Manuel Valls.
La souveraineté partagée. Quand allez-vous mettre un terme à cette hypocrisie ? Vous défendez la République quand le sujet concerne la métropole. Que défendez-vous quand il s'agit des Outre-mer ? Certains, à gauche ici, défendent le droit de vote des étrangers sur le sol métropolitain. Votre gouvernement, avec les mêmes de gauche, refuse ce droit de vote à des Français d'outre-mer sous prétexte qu'ils n'y résident pas depuis 27 ans. Soyons sérieux. restreindre le droit de vote des Français en Nouvelle-Calédonie au nom du respect d'un peuple que vous qualifiez vous-même de premier, créant de facto un peuple second, pour ne pas dire secondaire, parmi nos propres concitoyens, est insupportable. Réclamer une citoyenneté à deux vitesses en Outre-mer, en France, est anti-républicain, qu'on se le dise. Soyons clairs, la France est une et indivisible. Vous nous trouverez toujours sur votre chemin que vous tenterez de l'éclater en communauté, peuple et pays. Mes chers collègues, la Nouvelle-Calédonie est et restera française. La réponse a été donnée par nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie. Trois fois non. Non, non et non. Trois référendums. Pourquoi vous entêtez, monsieur le ministre ? Un projet de référendum nouveau ne peut être envisagé avant plusieurs décennies, le cas échéant.
Alexandre Allégret-Pilot, il est député du Gard, du côté d'Alès. Il a 36 ans. Il est haut fonctionnaire au ministère des Finances, chargé des entreprises en difficulté. Il a supprimé son compte Twitter en juillet 2024 après des tweets réactionnaires et xénophobes. Et il pose une question sur la Nouvelle-Calédonie. Il demande le dégel, le fameux dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie pour ouvrir le droit de vote à de très nombreux Français qui n'y ont pas droit depuis les accords de Matignon. On écoute Patrick Mignola qui va répondre à la place de Manuel Valls.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Le ministre d'État est précisément en Nouvelle-Calédonie et votre question souligne l'importance du dialogue qui est en cours sur ce territoire. Comme l'a rappelé le Premier ministre dans la lettre qu'il a adressée fin janvier à toutes les forces politiques calédoniennes, la Nouvelle-Calédonie figure parmi les priorités de l'action gouvernementale. Elle mérite de la part de chacun une attention particulière et un grand sens de la responsabilité. Et c'est dans cet esprit de responsabilité que sont conduites depuis trois mois les discussions sur l'avenir institutionnel de ce territoire en responsabilité et face aux ingérences étrangères. Avec l'ensemble des partenaires calédoniens, notre objectif est de parvenir à un accord global, équilibré et porteur de stabilité. Ce nouvel accord devra ouvrir une nouvelle étape dans la continuité du processus engagé depuis 1988 en clarifiant les perspectives d'évolution institutionnelle. Dans ce cadre, l'État assume pleinement sa responsabilité de garant du dialogue. Il appartient aux partenaires de définir ensemble les contours d'un futur statut. Un accord est indispensable pour la stabilité de la Nouvelle-Calédonie, car sans accord, ce sera le chaos social et économique. Cet accord devra consacrer un équilibre fondé sur la conciliation d'aspirations contrastées entre la volonté d'accéder à la pleine souveraineté et le souhait de rester au sein de la République française. La solution institutionnelle qui doit être trouvée sera nécessairement innovante, comme elle l'a toujours été avec la Nouvelle-Calédonie, pour ouvrir une nouvelle étape de construction du destin commun de tous les Calédoniens.
Le gouvernement qui essaye de renouer les fils du dialogue en Nouvelle-Calédonie, Kanaky, suite aux violences de l'année dernière.
Rassemblement national.
On verra la suite.
Merci Madame la Présidente.
Laurent Jacobelli pour le RN.
Monsieur le ministre de l'Industrie, ou devrais-je dire de la désindustrialisation. ArcelorMittal, numéro 1 mondial de l'acier, s'apprête à supprimer 634 postes en France pour les relocaliser en Inde ou en Pologne. À Florange, dans ma circonscription, ce sont jusqu'à 200 salariés qui sont menacés de perdre leur emploi. Quelle ingratitude envers ceux qui ont façonné notre territoire, forgé notre industrie. Ce sont leurs mains qui ont coulé à Florange l'acier de la flamme olympique. Cette flamme que vous brandissez à chaque occasion comme un trophée, tout en abandonnant ceux qui l'ont rendu possible. La sidérurgie, c'est l'âme de la Moselle, comme elle est l'âme de tant de bassins industriels que, de Dunkerque à Foss, vous avez sacrifié sur l'autel de la mondialisation sauvage. Bien sûr, c'est ArcelorMittal, gavé d'argent public, qui prend cette décision, car les grands groupes n'ont pour seule patrie que le profit. Mais c'est bien vous qui avez versé l'argent public sans exiger la moindre contrepartie sur l'emploi ou la localisation. Pire encore, vous avez ouvert les vannes des importations depuis la Chine, étranglé nos industries par des prix de l'énergie non compétitifs, étouffé la production française sous un déluge de normes absurdes, avec pour mantra le dogme de la décarbonation pour satisfaire les nostalgiques de la bougie qui vous fascine tant. Oui, vous êtes ici tous coupables de 40 années de renoncement, de mauvais choix et d'abandon. L'histoire vous jugera. Si elle est clémente, elle vous accusera de non-assistance à l'industrie en danger. Si elle est objective, de crime avec préméditation contre notre sidérurgie.
Laurent Jacobelli, il a 55 ans, il est député de Moselle, du côté d'Hayange. Il a été gérant d'une entreprise de production audiovisuelle qui s'appelait Sony Prod. Finalement, c'est un confrère, quelque part. Et il pose une question sur les fermetures d'usines en Moselle. On va entendre le ministre de l'Industrie qui va lui répondre.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jacobelli. Je dois reconnaître une constance au discours du Rassemblement national sur l'industrie. Cette constance, c'est d'instrumentaliser les difficultés des entreprises et la détresse des salariés. Cette constance, c'est de ne proposer en réalité aucune solution. Et c'est surtout de ne pas voir les causes profondes des difficultés de notre industrie sidérurgique. Les causes profondes, si vous discutez avec des sidérurgistes, avec des organisations syndicales, elles se situent par exemple, dans la concurrence déloyale que mènent les Chinois à notre industrie sidérurgique. Que faisons-nous par rapport à cette concurrence déloyale? Eh bien, il vous a échappé peut-être que des annonces ont été faites à l'initiative de la France sur les propositions que nous avons portées auprès de la Commission européenne. C'était le 19 mars, avec un renforcement des mesures de sauvegarde, avec l'idée de taxer aux frontières l'acier chinois de manière plus efficace, car il est très fortement carboné. Les réponses, elles sont aujourd'hui sur la table. Mais je veux vous le dire, monsieur le député, ces réponses, elles ne peuvent pas suffire s'il n'y a pas un travail collectif et s'il n'y a pas une prise de conscience collective qui est le fait de l'ensemble des élus des territoires qui sont concernés aujourd'hui par les restructurations. Je discute avec les élus de Dunkerque, je discute avec les élus de tous les sites qui sont concernés par les annonces d'Arcelor, et ces élus sont conscients d'une chose, il y a une réponse pour faire en sorte que les emplois soient maintenus en France. Il y a une réponse pour faire en sorte que l'acier reste une entreprise de souveraineté sur notre territoire. C'est d'innover et c'est d'investir. L'État est au rendez-vous pour soutenir ces investissements. Et lorsque vous dites qu'il n'y a aucune contrepartie aux aides, je vous dis que c'est faux. Toutes les aides sont versées en contrepartie d'investissements qui ont été réalisés. Lorsqu'ils ne le sont pas, comme c'est le cas par exemple pour les investissements de Dunkerque, d'Arcelor, eh bien les aides sont suspendues. Donc il ne faut pas raconter des histoires aux gens, il faut regarder les problèmes tels qu'ils sont, la protection commerciale, le soutien aux investissements, voilà ce que sont les leviers pour maintenir nos emplois et pour protéger nos territoires.
Merci beaucoup, monsieur le
D'accord.
Ministre.
D'accord.
Vous me rappelez François Hollande en 2012 sur sa camionnette à Florange, en train de faire des promesses avant de trahir les sidérurgistes. Vous êtes décidément exactement tous les mêmes.
Le gouvernement est trop de gauche, définitivement, pour Laurent Jacobelli. Sandra Marceau.
Madame la Présidente, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Économie. Depuis 2017, nous avons collectivement œuvré pour valoriser le travail en général et celui des indépendants en particulier, en simplifiant les démarches des entrepreneurs et en encourageant celles et ceux qui prennent des risques pour créer leur activité, mais aussi de l'emploi et des ressources pour nos politiques publiques. C'est pourquoi les différentes propositions du gouvernement concernant le régime des micro-entreprises,
la TVA,
d'abord le seuil unique d'exonération de TVA à 25 000 euros pour tous les secteurs dans le budget de 2025, puis le seuil différencié annoncé ces dernières semaines dans le projet de loi simplification, suscite de vives inquiétudes.
Ah bah oui.
Vives inquiétudes, je le souligne, sur plusieurs bancs de cet hémicycle.
Tiens d'ailleurs, dans le chat, les gens qui étaient anti-fleuristes tout à l'heure, est-ce que vous êtes pour la niche fiscale des auto-entrepreneurs ?
Guillaume Casbarian, Didier Legac et Paul Midi, et tous les autres bien sûr. Votre dernière proposition traduit une orientation qui va à l'encontre de l'esprit de clarté et de confiance que nous devons aux indépendants, me semble-t-il, en introduisant une complexité supplémentaire, en abaissant drastiquement les seuils actuels. Et cette réforme risque...
Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis pour la baisse de la fiscalité sur les petites entreprises.
Création d'activité.
Tout à fait d'accord avec vous.
Une insécurité juridique pour des milliers d'auto-entrepreneurs. Exactement. Je veux ici relayer leur message. Ce n'est pas d'un changement brutal et inadapté dont ils ont besoin, mais de stabilité, de simplicité et d'un accompagnement adapté à leur réalité de terrain et à celle de leur activité. Monsieur le ministre, dans ce contexte, que comptez-vous faire pour sécuriser les entrepreneurs de ce pays et particulièrement le régime de micro-entreprises auquel nous tenons, nous ?
Sandra Marceau, 51 ans, députée de Charente. Elle a été responsable d'un bureau d'études en urbanisme et en développement local. Elle pose une question sur les indépendants, la TVA des auto-entrepreneurs.
Députée Sandra Marceau.
Nous, on est des contribuables en colère sur ce stream et on veut la baisse de la fiscalité sur les entreprises. Éric Lombard.
Plus de 2,5 millions d'entreprises. Et la réforme
de franchise en base dont nous parlons n'entraîne aucune remise en cause du régime fiscal relatif à l'impôt sur les bénéfices. Et nous avons bien noté, comme vous le dites, que la réforme du seuil de franchise en base de TVA, telle que prévue dans la loi de finances initiale de 2025, a suscité des inquiétudes et nous les avons entendues. Ma collègue Véronique Louwagie, que je remercie, a mené une très large concertation avec les acteurs économiques et parlementaires. Et nous constatons que la réforme proposée ne fait pas l'unanimité ni pour ni contre. Et donc, la concertation a montré que le besoin de simplification était partagé, mais que les modalités d'une mise en œuvre sereine n'étaient pas réunies. En conséquence de quoi ? Le gouvernement a pris la décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme et de laisser le débat se tenir sereinement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.
Donc on a renvoyé à plus tard la discussion.
Nous proposerons une réforme plus équilibrée en tenant compte des situations de forte concurrence, notamment le bâtiment pour lequel il faut prélever les acquis de la réforme avec un seuil ramené à 25 000 euros par an. Équilibré en réduisant le nombre de seuils, mais en trouvant le bon niveau autour de celui qui a été proposé dans l'amendement proposé par le gouvernement en PJL simplification. Je veux rappeler que nous souhaitons agir avec méthode et dans le dialogue que le Premier ministre souhaite dans l'ensemble de nos actions et que la ministre Véronique Louwagie réunira à nouveau mardi prochain les parlementaires des différents groupes politiques dans la perspective de la préparation de ce projet de loi de finances pour 2026. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée.
Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Je dois dire qu'avec Paul Midi, qui a une proposition de loi toute prête, nous sommes prêts à échanger sur le sujet avec le groupe EPR. Mais merci de votre...
Let's go. Merci. Déposez-là votre proposition de loi. On y va.
Monsieur Jean-Hugues Ratenon pour le groupe La France Insoumise.
Jean-Hugues Ratenon.
Président, j'accuse. J'accuse et donc ma question s'adresse à qui veut bien répondre, car vous êtes tous responsables. Le chikungunya frappe durement, car vous avez laissé faire. Nous l'avons subi en 2006. Nous connaissons la bête qui nous a laissé plus de 250 morts et des milliers de personnes meurtries à vie, avec des séquelles aujourd'hui encore, soit 20 ans après. Nous connaissons la bête et savons comment l'éliminer. Vous, plus que nous, normalement, la bête a repointé son nez en 2024 à Saint-Gilles. Elle était dans la ligne de mire pouvant être éliminée, mais vous l'avez laissée basculer en épidémie. Et donc le voilà, le vaccin, alors que vous saviez qu'il n'avait pas prouvé son efficacité. En effet, dans son avis du 27 février 2025, la Haute Autorité de la Santé précise qu'il n'y a pas eu d'évaluation de l'efficacité vaccinale. Il est déduit à partir d'un seuil prédictif de protection déterminé chez le primate non humain. Et le laboratoire Valneva s'est engagé à mettre en place deux études d'efficacité en vie réelle. Après les singes, voilà donc les rayonnés comme cobayes. Conséquence du manque de moyens, des morts, des dizaines de milliers de malades, l'hôpital à bout, des déprogrammations de soins, un climat anxiogène, une grande défiance de l'opinion publique et une économie en difficulté. Oui, je vous accuse de favoriser l'affaiblissement des populations d'outre-mer, de favoriser l'affaiblissement du service public au détriment de la vie humaine. N'est-ce pas criminel, malsain ?
Jean-Hugues Ratenon, il a 57 ans, il est député de La Réunion du côté de Saint-André. C'est un ancien poissonnier, militant associatif et président d'une association d'aide aux chômeurs. C'est un vieux militant de la lutte contre la précarité et le chômage à La Réunion. Il pose une question sur le chikungunya suite à la reprise, malheureusement, de l'épidémie.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Ratenon, je ne peux pas vous laisser dire que la population de La Réunion sert de cobaye. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je veux simplement vous dire que cette épidémie, c'est l'affaire de tous. Nous devons y lutter sur différentes mesures antivectorielles, vaccinale. Je vous rappelle également que j'ai resté 3 jours, que je vous ai proposé à chacune de mes séquences de venir partager avec moi justement le désarroi du peuple réunionnais. Je veux aussi répondre à Madame Lebon Madame Lebon, vous ne pouvez pas m'opposer quand on explique qu'on va lutter contre l'obscurantisme, qu'on prend des décisions médicales qui sont basées sur les avis de la Haute Autorité de Santé, me faire le procès de ne pas être dans l'empathie alors que je parle de bénéfice-risque. Quand je me suis rendu à La Réunion, j'ai rencontré les parents du jeune bébé décédé. Je suis allé dans le service de réanimation où il y avait 47 enfants hospitalisés. Je me suis rendu et j'ai eu des nouvelles et je continue d'avoir des nouvelles vis-à-vis des patients tous les jours qui ont le cas d'encéphalite. Donc je crois qu'il faut être juste. Les gens souffrent. Nous avons une obligation de moyens pour pouvoir les accompagner et je ne pense pas que c'est en proposant à des familles de venir chez elles avec des réseaux sociaux et des caméras parce qu'ils ont été frappés par le décès d'un enfant qu'on va les soulager. Donc je crois qu'il faut être juste, il faut être empathique. Nous sommes le pays de Pasteur et nous soignons les gens sur des effets.
Lui, c'est Yannick Neuder, c'est le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Il est médecin cardiologue au CHU de Grenoble.
Contre le populisme.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Ratenon.
Monsieur le ministre, soyez digne et regardez en face tous ces nourrissons qui aujourd'hui sont en urgence absolue.
Merci beaucoup. La parole est à monsieur Karim Benbrahim pour le groupe socialiste.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, elle était venue au lycée pour apprendre et bâtir son avenir. Mais jeudi soir, Lorraine n'est pas rentrée chez elle. Elle est morte dans son lycée, poignardée par un élève de son établissement. Je veux ici honorer sa mémoire et partager la douleur de sa famille et celle de ses amis. Je tiens aussi à saluer le professionnalisme du personnel de l'établissement et leur adresser un message de soutien. Ce drame ne doit pas être considéré comme un fait isolé. Il est le symptôme d'un mal profond, la dégradation de la santé mentale de nos enfants. Les études montrent que 40% des étudiants présentent des symptômes dépressifs. Le taux de dépression chez les jeunes a quasiment doublé depuis la période pré-Covid. Mais notre système de santé mentale est lui-même en souffrance. Les moyens humains manquent pour détecter puis traiter efficacement les troubles. Les délais sont trop longs, les services saturés et l'offre de soins bien trop insuffisante. Dans ce domaine aussi, les inégalités territoriales sont majeures. Professionnels de santé, associations, élus de toute sensibilité politique tirent la sonnette d'alarme. Le mal-être des jeunes augmente sans que les réponses ne suivent. Face à l'ampleur et à l'urgence de la crise, nous avons besoin maintenant d'un plan d'action rapide et ambitieux, en investissant dans la prévention, en facilitant l'accès à des professionnels de santé mentale, en renforçant la présence dans les établissements scolaires, en soutenant les services de pédopsychiatrie, mais aussi en agissant sur les causes du mal-être. Après le drame de l'école Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes, votre gouvernement...
Mais genre dans le chat, ça vous surprend tellement que des meurtriers et des problèmes psy ?
L'essentiel reste, semble-t-il, invisible à vos yeux. Combien de signaux d'alerte faut-il encore pour que l'État agisse concrètement ? Proclamer une grande cause ne suffit pas. Il est temps de faire enfin...
Karim Benbrahim, député de Loire-Atlantique du côté de Nantes. Il a 45 ans, il est ingénieur spécialisé dans les énergies renouvelables et il pose une question sur la santé mentale des enfants suite à plusieurs épisodes de meurtres entre adolescents.
Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député Benbrahim. Encore une fois, je crois que ces agressions sont insoutenables pour les parlementaires que vous êtes, pour les ministres que nous sommes, pour les citoyens et les parents que nous sommes. Je pense que nous ne pouvons pas opposer santé mentale, prise en charge de la santé mentale de nos jeunes et protection de nos lycées. Donc je crois qu'il faut faire les deux. Donc je crois qu'il y a l'intérieur, la justice qui sont concentrés sur ces mesures de protection de nos établissements. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au député Jolivet, il n'est pas normal de se faire poignarder dans un établissement scolaire. D'un autre côté, il y a une vraie prise en charge de la santé mentale de notre jeunesse qui nécessite une déstigmatisation, qui nécessite un dépistage par les professionnels et qui nécessite surtout la formation plus de soignants, qui doivent s'orienter vers les métiers de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, d'infirmiers spécialisés, d'infirmiers en pratique avancée sur ces sujets. Tout ça, ça nécessite de réarmer nos centres médico-psychologiques dans nos territoires où les délais de prise en charge sont beaucoup trop longs, je vous le confirme, de voir si nous pouvons aussi réarmer notre médecine scolaire. C'est ce que nous ferons avec la ministre de l'Éducation nationale dans 3 semaines lors de la santé scolaire. Et puis enfin, de pouvoir former quand la prise en charge psychologique ne suffit pas, qu'il y ait une réelle prise en charge psychiatrique de notre jeunesse avec des traitements, avec des hospitalisations. Tout ça nécessite des moyens et tout ça, nous sommes engagés pour privilégier ces actions-là dans le cadre actuel, dans le cadre du futur projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais ce n'est pas en une année de santé mentale que nous allons régler ces sujets-là. C'est un engagement de plusieurs années pour améliorer la santé mentale de notre jeunesse.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Comme je vous le disais, la séance du mercredi est plus courte que la séance du mardi. Chacun des groupes a eu l'occasion de poser une question au cours de cette séance de questions au gouvernement. Je vais vous réafficher les questions d'ailleurs, elles sont là. Boum. Voilà les différents sujets qui ont été abordés aujourd'hui. On a eu une question sur le statut des auto-entrepreneurs et sur le plafond fiscal de 25 000 euros par an pour l'application d'un taux de TVA. Deux questions de députés de la Réunion, deux députés de la Réunion de gauche en l'occurrence, qui ont posé des questions sur le chikungunya. Et on a eu deux questions donc sur ces meurtres d'adolescents qui ont eu lieu l'un à Nantes, l'autre à Châteauroux, près de Nantes. Voilà, du mardi. Ouais, j'étais en train de chercher dans ma tête, c'est quoi l'autre jour des QAG là ? C'est quand déjà les QAG ? Je me pose la question du lexique militaire pour des questions de recrutement de soignants. On a l'impression que maintenant il faut tout réarmer. Pourquoi ce lexique est utilisé aujourd'hui ? Je sais pas, ça fait longtemps, non ? Moi, ça me choque pas. Il faut réarmer les hôpitaux en embauchant davantage de soignants. C'est pas un truc qui me... Non, je sais pas. Petite question. Il se passe quoi ensuite avec les questions posées ? Et elles ont eu une réponse, mais ensuite ? Mais ensuite, les députés retournent en commission et dans l'hémicycle pour travailler sur tous les sujets, y compris les sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Les suites, elles sont données par les députés et les ministres eux-mêmes, hein, qui t'expliquent la suite de ce qui va se passer. Regarde la députée qui a dit, par exemple, sur la question des auto-entrepreneurs, il y a une proposition de loi qui est déjà prête, il suffirait de l'inscrire à l'ordre du jour. Bon, bah, si elle est inscrite à l'ordre du jour, la proposition de loi, mais à mon avis, ça ne sera pas le cas, puisque le ministre du budget, le ministre de l'économie, pardon, Éric Lombard, a répondu lui-même que la question des taux de TVA pour les auto-entrepreneurs sera discutée par le Parlement à l'occasion du budget. Armée, ça veut dire doter. On parle d'armer un système, par exemple. Ça n'est pas spécifique aux militaires. Oui, c'est ce que je me disais, en plus. Armée, c'est du vocabulaire plus courant que militaire. Après, le vocabulaire militaire, c'est aussi un vocabulaire courant. Hein, mais... Oublie pas le teasing du livre de Castet. Ah, on verra ça après. Oui, mais oui, bien sûr, t'inquiète, j'oublie pas. Il y a également d'autres mots que réarmer l'hôpital. Oui. Et alors ? Le choix du mot n'est pas innocent non plus. Non, mais si vous voulez pas qu'on réarme les hôpitaux, on va faire autre chose avec les hôpitaux. Hein. On va les doter de davantage de moyens humains. Voilà. En essayant d'être plus clair. Armer un navire, c'est lui mettre un équipage. Oui, c'est vrai. Un navire est armé quand il a un équipage. Ouais. Je suis d'accord, ce truc de réarmement, ça veut rien dire. C'est guerrier, je m'en fiche que ce soit utilisé depuis longtemps. On voit bien que Macron parle de réarmement démographique. Dans Sauvagement, le contexte et l'usage des mots est important. Après, réarmer, c'est un mot que j'ai beaucoup entendu à gauche aussi, hein.
Encore une fois, je ne suis pas le dernier quand il s'agit de taper sur la droite pour le plaisir, mais quand même reconnaître que la gauche utilise aussi un vocabulaire martial. Non, mais c'est intéressant. On a encore eu la question du coup sur les sur le 1er mai. La question sur le 1er mai, comme quoi les entreprises, les petites entreprises, notamment on pense aux fleuristes, mais il y a aussi la Fédération des boulangers aussi qui a tiré la sonnette d'alarme, parce que le 1er mai est un jour férié qui est obligatoirement chômé, c'est écrit dans la loi. Chômé, ça veut dire qu'il est interdit d'embaucher quelqu'un. Ça veut dire qu'un indépendant, il a le droit d'aller bosser. Un boulanger qui veut aller bosser le 1er mai, il a le droit, tu peux pas l'empêcher. Il est indépendant, il va faire son pain, il va faire sa tournée de pain, et puis il va le vendre, etc. Par contre, il n'a pas le droit ce jour-là d'embaucher la personne qui d'habitude travaille à la caisse. C'est ça qui est interdit. À la différence des autres jours fériés, où tu peux embaucher quelqu'un, mais il faut le payer double. Et en plus, tu as aussi des questions d'ouverture de magasin. Pour vraiment ce qui est sur les magasins, il y a des dates d'ouverture de magasins autorisées. Les boulangers chez moi, ils font bosser la famille. Oui, non, il y a beaucoup de boulangeries qui sont des boulangeries familiales, effectivement. Il y a des boulangeries familiales où il n'y a pas de salariat, ou alors plus ou moins du salariat. Pas toujours très précis, mais ouais. Non, mais c'est une question intéressante. Est-ce qu'il faut autoriser les fleuristes à travailler le 1er mai, jour de fête du travail? Est-ce que la gauche va être l'ennemi de la liberté de travailler? Je reprends la notion de liberté de travailler parce qu'elle a été prononcée hier par une députée de l'UDR dont j'ai oublié le nom, qui, elle, disait que, en gros, les gauchistes, avec leur 1er mai, ils empêchent les honnêtes travailleurs d'aller bosser. C'était l'argumentaire qu'elle donnait, quoi. Pour les fleuristes, ça favorise les indépendants qui peuvent ouvrir face aux grandes chaînes qui emploient. C'est pas sympa pour les emplois des grandes chaînes, hein. Je veux bien, hein. Je suis pas dans le game des fleuristes, mais... Les travailleurs qui détestent les jours fériés, c'est bien connu. Non, mais je peux comprendre que pour un fleuriste, le 1er mai fait partie des jours les plus importants de l'année. C'est-à-dire que il y a des entreprises qui ont des moments dans le calendrier dont on sait par avance que ça va être important. Un marchand de jouets, la période de Noël, elle est importante pour lui, pour des raisons évidentes. Un marchand de chocolat, un chocolatier, la période de Pâques, c'est important. Un fleuriste, il y a le 11 novembre, il y a la fête des mères, il y a la Saint-Valentin, et il y a le 1er mai. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne connais pas, mais... Il y a la journée de la femme aussi. Il ne faut pas oublier la journée de la femme, parce que c'est la journée où on offre des fleurs aux femmes. N'oubliez pas, hein, c'est important. Je déconne, c'est une blague. Toujours peur qu'il y en ait qui prennent premier degré dans le chat. Le 11 novembre, le cimetière. C'est le 11 novembre le cimetière ou c'est un autre moment? Attends, j'ai un doute. Mais non, parce que le 11 novembre c'est la. Ah non, c'est le 1er novembre, c'est la Toussaint, c'est le 1er. Le 11 novembre c'est l'armistice. Non, mais ouais, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pareil, pour moi, c'est tout pareil. Bon, bref, c'est 10 jours plus tôt, vous avez l'idée. 11 novembre, c'est l'armistice, et le 1er novembre, c'est la Toussaint. Bref, le week-end de la Toussaint, c'est traditionnellement, on va sur les tombes de ses proches pour les refleurir. Donc, les fleuristes, évidemment, c'est important pour eux. Donc, je peux comprendre que pour les fleuristes, le 1er mai, où t'es obligé de rester fermé, ça soit un peu compliqué, quoi. Je vois pas le problème avec les fleurs. De quoi, le 11 novembre? Bah, je viens de te le dire. Voilà. 11 novembre, fête des morts. On va dans les cimetières refleurir les tombes de nos proches. Mmh. 1er novembre. Putain, la vache. La fatigue du mec. Terrible. Vous rendez compte ? Vous rendez compte l'état ? Vous rendez compte les conditions de travail du streamer ? On parle de la santé mentale des streamers, parce qu'on a parlé de la santé mentale des enfants, ce qui est une très bonne chose, hein, au demeurant, il faut en parler. On parle de la santé mentale des streamers. Vous avez vu dans quel état ça nous met, toutes ces conneries ? On se calme. Fais grève demain, Jean. Est-ce que je chôme demain ? Non, parce qu'il y a un monde où je chôme demain. Il y a aussi un monde dans lequel je joue à Flight Simulator. Moi, je sais pas. Hein. Je veux pas influer le chat. Faut voir. C'est vous qui voyez. Joueur diffusion. Mais non, mais c'est moins drôle de jouer sans vous. Moi, j'aime pas jouer aux jeux vidéo quand vous êtes pas là. Moi, je me sens tout seul et tout. Moi, j'aime bien quand vous êtes là et tout. Et puis après, on discute et tout. Vas-y. Merci. Merci Jeff pour le sub offert à Les Avions, c'est bien. Merci beaucoup. Un peu d'autonomie, que diable. Non, mais j'en sais rien, je verrai demain. Je verrai demain, je prendrai une décision. Bon, je vous ai proposé de vous lire, du coup, le début de l'introduction du livre de Lucie Castet, dans lequel elle explique comment elle est devenue première ministre. Pas exactement, parce que bon, la suite des évolutions ont fait que finalement, c'était Michel Barnier, mais elle a quand même raconté dans son bouquin, du coup, comment elle l'a vécu, le bordel. Donc je vous rappelle, hein, quand même, élection législative de juin 2024, qui se solde par une large victoire de la gauche. Non, je déconne, c'est faux. La gauche est arrivée en tête. On n'a pas de Premier ministre, et le président de la République annonce qu'on verra plus tard pour la nomination du Premier ministre. Merci Birbelotte pour le sub offert à Navion. Et donc, aux F sur 20. Mais quitte ce stream, hein, je t'en supplie, vraiment, barre-toi, il n'y a pas de souci. Et donc, on se retrouve à un moment où les dirigeants de la gauche, donc Nouveau Front Populaire, Insoumis, communistes, écologistes et socialistes, les quatre, décident de se mettre d'accord sur un nom pour devenir Premier ministre. Un nom qui serait ensuite soumis à Emmanuel Macron, qui pourrait le nommer ou pas. Le ou la nommer ou pas. On sait maintenant que la suite de l'histoire, c'était pas. Mais au moment où je vous raconte ce que je vais vous raconter, on savait pas. Alors, le 22 juillet 2024, vers 12h45, je viens de quitter mon bureau à la direction des finances de la ville de Paris, porte d'Ivry, et je m'apprête à enfourcher mon vélo afin de rejoindre un ami pour déjeuner, quand mon téléphone sonne. Je rappelle que Lucie Castet, à ce moment-là, c'est la directrice des finances de la ville de Paris. La ville de Paris, pour ceux qui ne savent pas, on est sur 10 milliards d'euros de budget par an. Voilà, Lucie Castet dirige ça. Mon téléphone sonne. C'est le nom d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et l'un des artisans de l'Union des partis de gauche parlementaires, qui s'affiche sur l'écran. J'étais alors en train d'échanger des messages avec ma femme. Je lui dis « Olivier Faure m'appelle ». Elle me répond « Qu'est-ce qu'il veut ?» Moi, aucune idée. Je décroche pendant qu'on continue notre échange. « Peut-être te proposer d'être Premier ministre ?» Ha ha, c'est la réponse de Lucie Castet. Ha ha, MDR. La France est alors dans une situation politique particulière. Au lendemain du résultat des élections européennes, très favorable au Rassemblement national et défavorable à la liste du mouvement présidentiel, Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. À la surprise générale, la gauche rassemblée sous forme d'un nouveau Front populaire et portée par un immense espoir arrive en tête au second tour le 7 juillet alors que l'ensemble des sondages prédisait une large victoire du RN.
La logique institutionnelle voulait alors que le NFP propose un nom de première ou de premier ministre pour gouverner la France en cohabitation avec le président de la République pour la troisième fois de l'histoire de la Ve République. Ça, c'est le paragraphe pédagogie de Lucie Castet. Ce fameux lundi 22 juillet, Olivier Faure commence. « Je souhaitais te consulter sur quelque chose. » Il poursuit. « Me parle de la situation politique, des discussions entre les partis de gauche. L'échange dure une dizaine de minutes. » Au fur et à mesure, je comprends ce qu'il s'apprête à me proposer. Pourquoi moi ? Il m'explique que c'est mon engagement dans les services publics et sur le sujet économique qu'il a retenu l'attention. Il souhaite soumettre mon nom aux autres figures du NFP. Quand je raccroche, je suis abasourdi. Le lendemain, il m'apprend que mon profil est validé par les représentants du NFP. Je m'arrête là. Je m'arrête là, si vous voulez la suite, il faut acheter le bouquin. Voilà comment ça s'est passé. Lucie Castet sur son vélo en train d'échanger des SMS avec sa femme qui se fait appeler par petit coup de bigot par Olivier Faure. MDR, ça te dirait de devenir Premier ministre? What? Is it a joke? C'est où, Bassourdi? T'es con. J'ai hâte de connaître la fin. Ah bah la fin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Twitch, vous pouvez ne pas la connaître, effectivement. Dans le respect du droit d'auteur, faire un résumé du bouquin, un teasing ou une lecture d'extrait est illégal. Oh c'est mignon, t'es en train d'essayer de m'apprendre le droit d'auteur. Alors, ce que je viens de faire est une lecture d'extrait qui a été contextualisée par le titre du bouquin, le nom de son éditeur. Il est parfaitement légal de lire un extrait de livre. Il est absolument interdit de lire des extraits trop longs et de faire une lecture complète. Et tout ce que je viens de dire est valable également pour les documents audiovisuels. Hashtag le React, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle le droit de courte citation, qui est encadré par la jurisprudence de la 17e chambre judiciaire du tribunal de Paris. Où sont passés nos milliards alors qu'elle est à la tête d'un budget déficitaire? Alors, elle n'est pas responsable du budget de Paris. Ça, c'est les élus parisiens qui sont responsables. Et puis, par ailleurs, l'endettement des collectivités locales, il est encadré par la loi. Donc, c'est pas, il est pas... Puis, par ailleurs, la note de l'endettement parisienne est très, très bonne. Audible, c'est totalement illégal alors. Alors, en fait, je sais pas si t'es second degré ou si t'es premier degré. Dans le doute, je vais dire que t'es premier degré et je vais t'expliquer du coup comment fonctionne Audible et les autres plateformes de livres audio. Les livres audio que vous trouvez sur cette plateforme sont le fruit des maisons d'édition des livres qui disposent des droits d'auteur et disposent des droits d'exploitation du livre. Donc, qui ont le droit de le mettre sur des plateformes audio. En fait, c'est littéralement eux qui le font. C'est les gens dont c'est les droits qui le font. De la même manière que diffuser sur la chaîne Twitch de Jean Massier, quand tu t'appelles Jean Massier, t'as le droit. Ça paraît débile, hein. Mais non, mais vaut mieux le dire, hein. Vaut mieux être assez clair là-dessus. je dispose des droits d'exploitation de Jean Massier. Je dispose même de ses droits à l'image. Je suis pas obligé de le citer, ce connard. Par contre, j'ai pas le droit de l'insulter, parce que sinon, il peut porter plainte contre moi. Mais vous savez que, blague à part, tous ces sujets sont des sujets qui évoluent au fur et à mesure du temps. Le fait de diffuser en direct des parties de jeux vidéo, au tout début de Twitch, il y a des éditeurs de jeux vidéo qui étaient contre. Parce qu'ils disaient que c'est un viol de propriété intellectuelle. Offrir l'expérience de jeu à un large public sur Internet... Il y a des éditeurs, pour ne pas les citer, ça s'appelle Nintendo, qui, dans une logique très japonaise du droit d'auteur, ont considéré que c'était illégal et ont poursuivi et ont obtenu le versement de droits d'auteur par des youtubeurs américains. Au début, c'était pas sur Twitch, c'était sur YouTube. Donc il y a notamment des très gros youtubeurs de Mario Kart aux États-Unis qui se sont retrouvés démonétisés sur YouTube
par Nintendo. Et je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs sur YouTube. Ils font des claims, mais alors ils te laissent diffuser, mais par contre ils gardent les droits d'auteur. Enfin, ils gardent les revenus AdSense. Faire du react à tes lives, c'est illégal? Non, il faut demander mon avis. Si vous voulez diffuser l'œuvre d'un auteur, vous devez avoir son accord. C'est ce qu'on appelle dans le jargon avoir les droits. Les droits peuvent être monnayés. C'est ce qu'on appelle dans le jargon acheter les droits. Vous pouvez payer pour avoir le droit de diffuser une œuvre. En revanche, vous avez le droit, c'est l'article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, je crois de mémoire que c'est cet article-là, vous avez le droit de faire des courtes citations d'une œuvre. Ça, c'est autorisé. Vous avez le droit de citer dans votre vidéo YouTube, sur votre live Twitch, un extrait de mon live à moi. Vous n'êtes pas obligé de me demander l'autorisation. En revanche, vous avez l'obligation de mettre le nom de mon live. Ça, c'est obligatoire. Ça fait partie des réglementations légales. Et vous avez l'obligation de respecter une durée courte. Vous n'avez pas le droit de prendre des extraits d'1h30 de mon live, et même de 45 minutes, etc. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Et le caractère court, qui se justifie par la nécessité de l'extrait, est examinable par un juge. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux qui sont spécialisés là-dedans, qui vérifient si le droit de citation a été respecté ou pas. Mais les gens qui, sur Twitch, font des documentaires, enfin, qui font des reacts de documentaires, non seulement c'est illégal, mais en plus, ça risque, et je le dis sérieusement, ça risque d'attirer le regard des sociétés d'auteurs de documentaires vers Twitch, et je vous jure qu'on n'a pas intérêt. C'est vraiment pas dans notre intérêt collectif de streamers d'avoir des sociétés de production télé et autres qui commencent à nous regarder de travers. À terme, ça peut être radical. Donc si vous voulez réacter un documentaire sur Twitch, je vous invite à le faire. Mais avant, vous demandez l'autorisation à la société de production. Et quand je dis demander l'autorisation, c'est un mail. Hein. Vous envoyez un mail. Moi, je l'ai déjà fait par le passé. Hein. Bonjour, je m'appelle machin. Je suis sur la plateforme Twitch. Je propose des lives blablabla. Je souhaiterais diffuser le documentaire que vous avez produit. Pourrions-nous en discuter au téléphone? Voilà. Et au téléphone, t'expliques à la personne que t'as au téléphone, bah, je suis un petit streamer, j'ai pas beaucoup de viewers, c'est pas une audience de fous furieux, d'ailleurs je gagne pas ma vie avec ce que je fais, donc je vais pas vous mentir, j'ai pas d'argent, je vous demande juste de me donner le droit de diffuser votre documentaire, est-ce que ça vous va? Et vraiment, il y en a qui disent oui, hein. Il y en a plein qui sont contents même, ils disent « Ah, ça fait plaisir !» Ce vieux docu et tout, machin, ouais, vas-y, je vous le donne l'autorisation par mail. Vous savez, tu fais une autorisation par mail et puis c'est terminé, merci, au revoir. Quand tu lis un article de presse, ça par contre, t'as le droit. Même les articles réservés aux abonnés, c'est autorisé, ça s'appelle l'exercice de revue de presse. L'exercice de revue de presse est autorisé. Ça fait partie des exceptions au droit d'auteur. Pareil, je le dis tout de suite, s'il y en a qui se posent la question, les séances de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, c'est une exception au droit d'auteur. Les débats parlementaires ne sont pas soumis à droit d'auteur. Aujourd'hui, ça pullule les chaînes qui diffusent en toute illégalité des films et des séries TV, des séries animées en intégralité. Ah non, mais c'est moi, vraiment, quand je vous dis que les streamers feraient bien de bien se comporter sur Twitch... C'est pas pour le plaisir de respecter des règles de manière un peu trop zélée. C'est juste que, à terme, ce qui va nous arriver, c'est que Twitch va mettre en place un système similaire au système qui existe sur YouTube, de claim, et on va se retrouver à avoir des strikes automatiques par des intelligences artificielles qui vont nous retirer du pognon juste parce que le robot aura décidé que ce qu'on fait relève du droit d'auteur de machin truc. À terme, c'est ce qu'on va se prendre dans la gueule. Donc je me permets de dire à mes confrères et à mes consoeurs de Twitch,
venez, on essaye de faire un peu gaffe à ce qu'on fait pour pas donner de l'eau au moulin de ce genre de bordel, quoi. Moi, je vous avais déjà raconté, vous connaissez le système de claim automatique de YouTube ? Quand tu diffuses sur YouTube, tu peux te faire claim automatiquement par un auteur parce que les robots ont détecté ce que tu as diffusé et qu'ils l'ont comparé avec le catalogue d'un propriétaire de droits d'auteur et qu'ils ont constaté que ça matchait. Bon, ça, c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez uploader sur YouTube un match de foot, un film, une musique de Beyoncé, vous allez vous faire strike à coup sûr parce que les robots vont détecter. Et ben moi, une fois, j'ai diffusé... J'avais diffusé quoi ? Je sais plus. Je crois que j'avais diffusé l'allocution du président de la République sur YouTube. Et TF1, ou France Télévisions, je crois que c'était France Télévisions à l'époque, a striké ma vidéo. En disant, vous n'avez pas le droit, ça nous appartient. Il dit, comment ça, ça vous appartient ? Ah non, c'était autre chose. Non, c'était autre chose. C'était pas une allocution. Non. Mais je vous en reparlerai quand on fera le live des 10 ans, etc. C'était un débat sur CNews. CNews, pendant la présidentielle de 2022, ou même avant, non, c'était celle de 2017. CNews, pendant la présidentielle de 2017, donc CNews n'était pas encore complètement facho à l'époque. À l'époque, il y avait Clément Viktorovitch sur CNews, vous vous rappelez ? CNews avait organisé un débat des petits candidats. C'était pas encore iTélé. Non, c'était plus iTélé, c'était déjà CNews. Donc voilà, donc CNews organise un live, enfin une émission, pardon, sur CNews, un débat des petits candidats. Ok ? Moi, j'envoie un mail à CNews, avant le début du truc, en leur disant « Bonjour, je suis streamer sur Twitch, est-ce que je peux, s'il vous plaît, diffuser votre débat en version commentée. J'explique dans un mail avec un paragraphe et tout, voilà ce que j'ai l'intention de faire et tout machin. » Et CNews, ils me répondent « Ouais, vas-y, c'est bon, on te donne les droits. » Bon, bah j'avais les droits. Bah très bien. Bon, bah j'ai fait mon stream. Ça s'est très bien passé. À l'époque, mes 150 viewers étaient super contents. C'est même pas vrai, on devait en avoir une centaine à tout péter. Et donc voilà, on en fait notre émission. Je mets le replay sur YouTube et je vais me coucher. Et le lendemain, donc moi j'ai les droits de diffusion, hein. J'ai 100% les droits de diffusion, c'est sûr. Et le lendemain, je découvre que la vidéo a été strikée par France Télévisions. Et moi je me dis, mais attends, comment ça France Télévisions strike un contenu de CNews ? C'est quoi ce délire ? Et je fais un peu des recherches et tout, et je constate que le journal télévisé de France 2 a diffusé un extrait du débat de CNews. Droit de courte citation. Sauf que le robot de France Télé, cet abruti, à partir du moment où l'extrait a été diffusé sur France 2, il a considéré que l'image source lui appartenait, puisque c'est France 2 qui a diffusé. Et du coup, le robot de France Télévisions m'a striké. Donc France Télévisions a striké Acropolis. Parce alors qu'Acropolis avait les droits de CNews pour diffuser un truc de CNews. Autant vous dire que ça m'a pris 2 jours de coups de téléphone pour essayer de trouver quelle était la personne à l'intérieur de ce mastodonte qui s'appelle France Télé, qui est responsable du strike des droits d'auteur de France Télévisions dans YouTube. Et j'ai fini par avoir quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Ouais, je vais faire la manip, je vais retirer le strike. » Et puis voilà. Et je crois que j'ai été whitelisté d'ailleurs depuis. Et entre-temps, c'était perdu. On avait perdu tous les viewers. On avait perdu tous les revenus AdSense possibles. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Alors autant vous dire que là, on était retombé à zéro. On n'a jamais gagné d'argent sur AdSense sur cette vidéo. Parce que de toute façon, on s'était fait baiser. Ouais, c'est trop tard. Hein. C'est aussi d'ailleurs un des problèmes du système de strike... et de droits d'auteur sur YouTube, c'est que quand tu te fais striker, parfois ça peut mettre 48 ou 72 heures à rétablir ta vidéo, et si pendant ce temps-là t'es passé à côté de la vague, terminé. Ta vidéo sur laquelle t'as bossé pendant des semaines, elle sert à rien. C'est assez pénible. Quand le strike est levé, tu récupères pas rétroactivement ? Non. Non, non. Tu peux demander un dédommagement ? Bah, bien sûr que non, je peux pas demander un dédommagement parce que je suis un tout petit streamer. Enfin, à l'époque, hein, je vous parle bien de à l'époque. Je suis personne, je suis rien, j'ai pas de moyens, j'ai pas d'avocat. Je vais pas. On parle de 50 euros. Hein. On parle de 50 euros. Je vais pas déclencher des poursuites en justice, envoyer des courriers, passer du temps et de l'énergie pour grappiller 50 balles. Je peux pas. J'ai pas les moyens de. J'ai pas ce luxe-là. Ça coûte de l'argent d'être pointilleux. L'AdSense, c'est pas rétroactif. Je crois pas. Hein. Je crois pas que l'AdSense soit rétroactif. Hein. Une fois qu'on t'a. Si on te rétablit dans tes droits, je suis pas sûr que tu gagnes de l'argent rétroactivement. Hein. Je crois que tu gagnes de l'argent à partir du moment où on t'a rétabli. Faudra demander à des youtubeurs plus spécialisés que moi, sur YouTube en l'occurrence, qui savent mieux que moi. Même si t'es validé ensuite. Ouais, même si t'es validé ensuite. Il me semble que les revenus sont gelés en cas de contestation. Ah bah si c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Non mais si ça se trouve, tu sais mieux que moi, parce que moi, pour le coup, je suis plus un spécialiste Twitch que YouTube. J'avoue que j'ai pas eu à faire à ce genre de truc, mais si tu me dis que les revenus sont gelés pendant le temps de la contestation, ça veut dire qu'à la fin de la contestation, tu touches les revenus si jamais tu es rétabli dans tes droits. Notre abonné, il se faisait full strike ses vidéos durant un moment. Une boîte américaine faisait full strike sans avoir les droits et recevait de YouTube en auto une part de AdSense. Alors, je vais vous raconter une anecdote, c'est une histoire vraie. Je savais hein, pour Nota Bene. Il y a deux mecs aux États-Unis qui ont eu une idée d'arnaque absolument géniale. Vous avez bien compris donc que quand vous possédez des droits d'auteur, vous pouvez les déclarer à YouTube et YouTube va faire travailler des robots en permanence pour vérifier si vos droits d'auteur sont violés ou pas. Si quelqu'un viole vos droits d'auteur, si quelqu'un utilise votre musique par exemple, si vous êtes une maison de disques, un YouTuber utilise votre musique sans vous demander l'autorisation, le robot le détecte et il va récupérer l'argent de la vidéo, et l'argent va être versé à la maison de disques. Comme ça, on ne coupe pas la vidéo, elle est toujours diffusée sur YouTube. Par contre, les revenus que génère la vidéo ne vont pas au YouTuber, mais vont à la maison de disques. C'est comme ça le système. Je simplifie, parce qu'il y a plusieurs autres manières de le paramétrer, mais ça, c'est un des paramétrages possibles. Du coup, il y a deux mecs aux États-Unis qui se sont dit, mais attends, il y a moyen de se faire du fric. Ils ont créé une entreprise qui s'appelait Maison de Disques, genre Music Records 2000, tu vois. Ils ont créé une maison de disques et ils se sont enregistrés comme maison de disques auprès de YouTube en disant à YouTube, bonjour, nous sommes une maison de disques. Et YouTube leur a dit, bonjour, enchanté, nous vous enregistrons comme maison de disques. Quel est votre catalogue de musique ? Et là, les deux mecs, ils ont été malins, ils ont déclaré un catalogue de musique qui évidemment ne leur appartenait pas du tout. Mais plutôt que d'aller chercher des grosses musiques, des musiques célèbres, des Beyoncé, des Britney Spears et tout... Le mec était plus malin que ça. Ils ont dit ça, c'est trop grillé. Si on fait ça, on va se faire cramer, ça marchera jamais. On va aller chercher des petites musiques locales partout dans le monde. Musique brésilienne, musique afro, musique orientale, des espèces de jazz un peu machin et tout. Quelques musiques libres de droit. Ça existe, hein, y a des musiques libres de droit. Des petits groupes et tout, mais des trucs vraiment pas connus, des gens qui... Voilà, pas de soucis. Et du coup, ils ont déclaré un catalogue de musique qui leur appartenait pas, qui faisait certes pas beaucoup de bruit et pas beaucoup de vues sur YouTube, mais ils en ont déclaré tellement qu'ils ont commencé à gagner du pognon, mais un truc mais de malade. Et ça a marché. Et c'était pas sur Spotify, il y a eu une arnaque similaire sur Spotify. Alors à la fin, ils ont fini par se faire gauler. Et je sais pas quel est le fin mot de l'histoire d'ailleurs, je vous avoue que j'ai pas la fin du truc, mais ils ont fini par se faire gauler. Et je sais que sur Spotify, il y a eu la même arnaque qui a été créée aussi. Si t'es au courant, c'est qu'ils se sont fait choper. Oui, clairement. Oui, clairement.
Donc voilà, donc si vous créez des contenus sur Internet, chers amis, n'hésitez pas à utiliser des musiques libres de droit. Si vous n'avez pas les moyens de payer un musicien pour faire de la musique, payez des musiques libres de droit. Et si vous diffusez des contenus qui ne vous appartiennent pas, il faut que vous vérifiez, dans le code de la propriété intellectuelle si vous avez le droit de diffuser ce que vous diffusez. Si vous n'avez pas le droit, si les contenus sont couverts par un droit d'auteur, il faut que vous demandiez à l'auteur le droit de diffuser. Et posez votre travail à l'INPI. Et posez votre travail à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Je ne sais pas du tout si je le fais, d'ailleurs, je ne crois pas. J'en sais rien. Mais oui, ah oui, oui. Non, par contre, ce que tu as raison, ça, si je l'ai fait, j'ai déposé les marques et les logos. Protégez votre droit en faisant des déclarations à l'INPI. C'est très important. Il y a ce qu'il faut sur YouTube au niveau des musiques libres de droit. Vous trouverez sur YouTube une communauté de musiciennes et de musiciens qui s'appelle les NCS, qui sont les No Copyright Songs, donc les chansons sans copyright. Donc les chansons libres de droit. Les NCS sont des artistes qui proposent volontairement des musiques sans droit d'auteur dessus. Ils renoncent à leur droit d'auteur et vous trouverez tout un tas de styles de musique différents en NCS. Si c'est votre truc, n'hésitez pas. Faded. Alors voilà, s'il y a des amateurs sur le chat de YouTube et de Twitch, il y a 2-3 morceaux que vous allez reconnaître assez vite. Attends, je vais essayer de la retrouver parce qu'il y en a qui n'ont pas la ref. Elles sont où les paroles ? Bon, bref. Vous retrouvez, c'est bon ? Non mais blague à part, c'est 100% mon type de musique ça. Hein. Je vais aller chercher la version d'Alan Walker pour avoir les paroles. Voilà. Elle est totalement dans ma playlist, mais moi aussi elle est dans ma playlist depuis des années. C'est un kiff ultime cette musique, moi j'adore. Enfin vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette musique. Donc voilà, donc il y a une époque, bon voilà, il y a une époque, comment vous dire, que si vous regardiez des performances Trackmania sur YouTube, il y avait comme qui dirait 90% de chances que tu aies cette musique-là en fond. Les feels, ah ouais, non, mais les feels sont énormes. Hein. C'est toute une époque, c'est extraordinaire. La musique, elle a 9 ans, les amis. C'est incroyable. C'est incroyable. La VO, je l'ai jouée des dizaines de fois quand j'étais DJ. Ah non, mais ça m'étonne pas. Mais ça, c'est hyper efficace. Moi, c'est vraiment ce genre de musique, cette espèce d'esprit un peu eurodance. Ça me fait danser, mais immédiatement. Même à peine bourré. À peine bourré, je danse déjà, tu vois. Non, non, mais... Si tu prends une musique libre de droit et que tu ajoutes des paroles comme Alan Walker, est-ce que ça devient plus libre de droit ? C'est une bonne question, tiens, d'ailleurs. Je ne sais pas, est-ce que Alan Walker a l'obligation de respecter le bordel d'avant ? Alan Walker, aimerait une musique. Bah, en tout cas, sur sa chaîne YouTube, il déclare des droits d'auteur. Donc ça, c'est le clip. Attendez, bougez pas, je vais tout remettre comme il faut. Ça, ça dégage. Ça dégage. Donc ça, c'est le clip sur YouTube qui tourne. Ça, c'est les paroles. Et quand on descend, on voit qu'il y a des copyrights. Vous voyez ? 2015, Alan Walker, MER Music. Et 2015, Sony Music Entertainment, Sweden AB. Donc a priori, ce que je viens de vous diffuser, c'est-à-dire la version avec des paroles, je n'ai pas le droit. A priori, si je comprends bien les crédits, je vais me faire striker. Auquel cas, je tiens à présenter mes excuses à Sony Music Entertainment et à MER Music, ainsi que personnellement à Alan Walker, I am sorry, I didn't want to hurt you, I am French streamer and I want to make listen music to my public about copyrights. Is it okay? Ça frappe déjà à ta porte. Et merde, ah putain, terrible. Absolument terrible. Je vais vous laisser les copains. On va faire un raid chez l'ami. On va faire un raid chez l'ami Clément Viktorovitch. Moi, il faut que je bouge. Je vous fais un bisou. Merci d'avoir été là. Passez une bonne après-midi. Et puis voilà quoi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et on se revoit peut-être dans les jours qui viennent, mais uniquement pour du Flight Simulator. Si vous êtes poli, si vous êtes gentil. Faites des bisous à Clem de ma part. À très bientôt. Ciao.
Commerçant palois croise les doigts pour ne pas devenir la prochaine cible du serial voleur de voyelles, le fameux et terrible fétichiste du U.
Waouh, incroyable!